Vous écoutez
RMC.
RMC. 18h-20h.
Rotten Régal. Jean-Louis Tour.
Jérôme Rotten.
17h59 sur RMC. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Rotten Régal. Comme tous les vendredis. Allez, on est sur la fin de l'année. Hein, avec mon équipe, là, on finit. On va essayer de bien finir. Avec Jean-Louis Tour, bien sûr. Salut Jean-Louis.
Salut Jérôme.
Ça va ?
Salut tout le monde. Ça va très bien.
T'es un peu fatigué, là, de la fin de l'année, là ?
Ouais, j'étais un peu malade. J'ai une petite défaillance. J'ai une quinte de tout cette semaine. Heureusement, t'étais là pour me sauver.
Ouais, je sais pas si je t'ai sauvé. En tout cas, la semaine dernière, tu m'as pas sauvé. Hein, donc, parce que j'ai eu la même chose.
Si, je t'ai sauvé.
Jean-Michel Larquet, bien sûr, avec nous, on l'entend. Salut Jean-Mi.
Bonsoir. Ceux qui toussent se sont vieux, tu sais. Quand tu prends de l'âge, tu commences à tousser, c'est normal.
Là,
hein.
C'est terrible.
C'est vrai. Jean-Louis est né vieux, je trouve. C'est vrai qu'on a vu une photo de lui à 18 ans, je te jure, c'est le même qu'aujourd'hui. C'est dingue.
C'est vrai.
Alors après, si tu stacks comme ça, tu vieillis pas.
Et heureusement qu'il a des cheveux.
Arrivé à 60 ans, tu feras ton âge.
Oui, c'est ça, si tu veux. Non, mais moi, si j'ai cet âge-là encore pendant 10 ans, je suis très content.
Ouais.
Ça fait 10 ans que je l'ai. Donc voilà.
C'est comme Jean-Michel.
Il fait déjà 60 ans.
Jean-Michel, ça fait 30 ans qu'il a le même âge. C'est remarquable.
Ouais, il avait déjà la coupe de Star Trek. Hein.
Oui, c'est vrai.
Il l'a toujours. Elle a pas bougé, celle-là.
Quelque chose à dire, Jean-Michel ?
Non, non, Star Trek, c'est pas celui qui a les oreilles décollées, là.
Si, si, c'est ça, Spock, Captain Spock.
Ah non, c'est Jacques Santini. Excuse-moi, j'ai confondu avec Jaco.
On embrasse Jacques Santini. Il devait pas venir faire un Rotten Régal, Jacques Santini.
C'est la dernière.
Il y a l'Euro. Non, on sera quand même là la semaine prochaine, même pour le début de l'Euro, mais on sera en Rotten Régal spécial Euro à quelques minutes du premier match.
France-Angleterre.
On invitera
les France-Angleterre de 2004. Voilà.
Bah oui, c'est une bonne idée, ça.
Bah ouais. Puis il avait fait un bel Euro. C'est vrai que ça s'était bien passé.
Oui.
Il avait signé à Tottenham avant, il nous l'avait annoncé. Et là, on a senti une rage de vaincre dans l'équipe.
Incroyable, cette Euro
2004. À la fédération, il lui avait fait un petit peu à l'envers aussi.
Oui, c'est vrai.
Ouais. Alors, tu fais pas de soucis.
Que Jacques Santini vienne nous raconter tout ça.
Mais voilà,
en détail.
Bien sûr qu'on l'accueille. Je m'entends très bien avec Jacques.
Bien sûr.
Et puis, bien sûr.
Et on lui laissera le temps de répondre.
Bien. Ouais, vaut mieux faire sur une émission de 3 heures en fait.
Allez, c'est parti pour Rotten Régal en mode Euro. Donc on est à une semaine tout pile du début de la compétition, à 11 jours du premier match des Bleus. Captain veut revenir sur l'une de tes prises de position de la semaine, Jérôme. Pour toi, le leader des Bleus, c'est Antoine Griezmann, et ça le reste même après ce premier match de préparation. 32-16, appelez-nous pour participer au débat. On écoutera aussi un entretien en longueur avec Olivier Giroud, et puis on n'oublie pas la Ligue 1 qui a été le pilier tout au long de la saison de Rotten Régal. Donc à 19h, multiplex spécial Mercato.
Ah oui.
Les infos à Bordeaux, à Nantes, à Rennes, à Lyon. Et le nouvel entraîneur de ton club formateur, Jérôme, Stéphane Moulin, a été présenté aujourd'hui. Donc on en parlera également dans le multiplex à 19h. Mais tout de suite.
Et Duprat, il va où, Duprat ?
Ah bah ça, je ne sais pas. Il est sur RMC.
Je pensais qu'on essayait de le transférer aussi. Non ?
Ah, j'ai pas d'infos.
Ah.
Je sais pas ce qui se passe, mais bon.
Ouais, je sais pas.
T'as peut-être plus d'infos, je ne sais pas.
Je crois qu'ils veulent le mettre dans l'after. Il passerait des bons moments hein, dans l'after. Avec Daniel.
Et toi
Non, moi non. Moi j'ai
ça
plus
va
le temps.
Duprat.
Avec Pascal Duprat.
Oui. Non.
Bah, je sais pas si ça va. Moi je dis des vérités. Hein, donc ce que je vois. Donc après, des fois,
côté,
tu les graffines un peu.
Et du sien, on sait pas.
Ce qu'il a fait dans mon club formateur, c'est pas génial. Quand même.
Non, c'est pas fou à Comte. On y reviendra sur Comte tout à l'heure. T'as vu que Patrice Garande aussi à Toulouse, c'est fini.
Ouais, par contre, là, j'étais déçu. Tu vois, je l'ai défendu.
Ah oui.
Je l'ai défendu parce que je trouve que c'est dégueulasse de l'avoir viré comme ça. Il a eu une année, certes, à la fin. Non, mais un peu compliquée à la fin. Mais,
son président est un génie, hein, donc il a senti
la Molina. Ça y est, Greg, c'est compte.
Chacun avec ses comptes à chaque fois. Bon, allez, on y va.
J'ai dit, je fais des compliments sur le président de
parce que ça t'a marqué son passage à Saint-Etienne.
Allez, on y va. L'équipe de France.
Et pas qu'à moi.
Est-ce qu'il faut avoir peur du gâchis, messieurs, pour les Bleus?
Nous avons mis 4 produits rares dans notre panier et on commence avec le caviar français. Rencontre avec un producteur installé en Sologne.
La qualité, elle est là. Évidemment, je le sais, vous le savez.
Et à l'ouverture du score pour Kylian Mbappé.
Les premiers caviars qu'on a eus, alors qu'on avait peu d'expérience, étaient déjà des caviars qui avaient de bonne qualité.
Griezmann la frappe à rouler. Oh, à qui le mot ? Ce but d'Antoine Griezmann. Et le but de Ousmane Dembélé.
Depuis que le chef y a goûté, il ne peut plus s'en passer, une saveur unique, réservée à quelques privilégiés.
We are the people we've been waiting for.
Et oui, il y a du caviar en équipe de France. Alors ça a été le débat pendant longtemps autour des Bleus. Un débat que Didier Deschamps est presque parvenu à faire passer avec le temps. Le nombre de joueurs offensifs alignés. Depuis l'Euro 2016, on sait que sur un gros match, Deschamps privilégie l'équilibre en ne mettant que trois attaquants. Mais alors, vu le potentiel qu'on a désormais en équipe de France, et on l'a vu face au Pays de Galles, est-ce que ce serait du gâchis de n'aligner que trois attaquants, de n'aligner que, entre guillemets, Mbappé, Benzema, Griezmann. 32-16, appelez-nous pour en débattre. Jérôme.
Écoute, j'ai envie de te dire oui. Avec le potentiel qu'il a aujourd'hui, des joueurs qui sont sur le toit de l'Europe dans leur club, quasiment, hein, tu regardes, hein, ils ont fini. Alors, bien sûr, tout le monde ne peut pas être champion d'Europe, mais bon, quand on parle de Karim Benzema, on parle de Kylian Mbappé, on parle d'Antoine Griezmann, on parle de Kingsley Coman, d'un point de vue offensif. Je pense que il y a vraiment moyen pour se faire plaisir. Et je trouve que Didier Deschamps doit se servir de ce qu'il a voulu mettre en place pour continuer à faire des changements, jouer d'une certaine façon. On a gagné la Coupe du Monde, très bien. Lui-même l'a dit, hein, c'est avec toi, Jean-Louis, avec Mohamed, lundi, on l'avait fait en interview, quand il dit je sais que on gagnera pas l'Euro comme on a gagné la Coupe du Monde. Donc c'est qu'il y a une réflexion. Et si c'est le cas, en effet, peut-être faire évoluer l'équipe. Alors je sais pas, moi je partais sur trois défenseurs et une animation différente, mais ça peut être un quatre défenseurs et quatre milieux de terrain avec des joueurs sur les côtés qui sont plus offensifs que d'avoir trois milieux de terrain qui te servent pas forcément à grand chose. C'est vrai que j'ai tendance à tomber un peu sur Adrien Rabiot et je l'ai dit après le match, mais parce que je trouve que sa position et ce qu'il apporte à cette équipe est quasiment inutile. Alors c'est dur de dire ça, je dis pas que c'est un mauvais joueur, bien sûr que non, sinon il s'imposerait pas à la Juve, même si c'est pas la meilleure Juve, il aurait pas joué autant d'années au Paris Saint-Germain et être un joueur international. Mais je trouve que quand t'as les moyens et t'as dans les mains, il l'a dit Didier Deschamps, des joueurs fantastiques, et ben fais en sorte que ton équipe devienne spectaculaire. Et en plus, il risque pas grand chose parce que il le dit lui-même aussi. Le collectif est très important. Mais le collectif, il est important. Et je pense qu'il y a rien qui peut perturber ce collectif. Et on le voit à chaque match. C'est qu'il a transmis, il a réussi à mettre cette rage de vaincre, cette haine de la défaite à tous les joueurs. Et aujourd'hui, c'est quand même un gage de résultat, gage de réussite d'avoir cet état d'esprit-là. À partir de là, si t'as ça, même les joueurs offensifs, ils l'auront, ils vont se battre, ils vont se transcender, faire des choses qui font pas forcément en club, c'est-à-dire les replis, essayer de récupérer le ballon plus vite et puis surtout d'avoir un peu plus de maîtrise technique. Et ça, dans ces cas-là, bah, tu retires un milieu de terrain, tu retires Adrien Rabiot, tu restes à jouer avec Pogba et Kanté. Ça peut être Tolisso aussi, hein. Attention, il y a des bons milieux qui peuvent jouer aussi. Et là, ça te libère une place d'un point de vue offensif. Et là, oui, ça peut avoir un peu, ça peut avoir de la gueule. Et je pense que ça jouera pas sur les résultats. Et surtout, il faut.
Tu mets pas en péril l'équilibre, en fait.
Non, parce que l'équipe de France, elle fait peur. Aujourd'hui, elle fait peur à toutes les autres équipes. Tout le monde le dit. Ils sont unanimes pour dire que l'équipe de France, elle est fantastique. Déjà, rien que par rapport à son titre de champion du monde, c'est la meilleure équipe du monde pour la plupart des équipes qu'on va jouer. Donc, il y a un complexe d'infériorité. Alors, ils peuvent se transcender en préparant les matchs contre l'équipe de France qui est fantastique et en disant ça, sauf que l'équipe de France doit jouer là-dessus aussi. Aujourd'hui,
l'équipe de France a tout à perdre et les autres ont tout à gagner. Donc, je ne sais pas s'ils feront vraiment de complexe d'infériorité, les autres.
Tout à perdre, je ne sais pas. Ouais.
Elle a tout à perdre, elle est championne du monde. Et elle est archi favorite. Il est évident que c'est elle qui a tout à perdre.
Mais c'est vrai. Non, mais t'as raison. Mais Jean-Michel, je te pose la question. Quand tu es dans cette situation-là, tu te sens fort. C'est logique. L'équipe de France gagne la plupart des matchs. Et ben, dans ces cas-là, mets tes joueurs qui vont poser encore plus de problèmes à l'adversaire. Et dans une équipe, qu'est-ce qui pose le plus de problèmes? C'est le jeu offensif de l'équipe. C'est-à-dire, si t'as les meilleurs joueurs sur le terrain.
Oui, mais dans les grandes compétitions, Jérôme, on n'a jamais vu, ça n'a jamais été l'équipe qui offensivement a été la plus brillante qui a gagné. Bravo. C'est souvent, et je le regrette, c'est souvent l'équipe qui a été la plus solide défensivement. Tu le sais aussi bien que moi, Jérôme, quand on faisait, à ton, oui mais toi c'est longtemps, peut-être que tu t'en souviens pas, quand on faisait des petits 6-6 en travers du terrain.
Et tu joues avec les défenseurs et les attaquants, c'est toujours les défenseurs qui gagnent.
Voilà. Donc, déjà, toujours les défenseurs qui gagnent. C'est la preuve, c'est bien la preuve quand même que la défense est à respecter dans l'équilibre d'une équipe. D'autre part, sur cette équipe de France, là, quand elle joue en 4-3-1-2 comme elle a joué, dans les trois du milieu, dans les quatre, dans les trois où se trouvaient Tolisso, Pogba et Rabiot, si elle joue comme ça, Jérôme, j'aimerais avoir dans ces trois-là des hommes qui se projettent dans les couloirs et qui soient capables d'aller titiller les défenseurs adverses. Je n'ai pas là-dedans. Si tu joues en 4-3-3 avec une pointe haute et que cette pointe haute soit Griezmann, tu vois, je te ménage pour pour tout à l'heure. Mais on y reviendra. Et que sur les côtés, tu fais une attaque avec. Je te prends les trois du milieu, Pogba, Kanté et Griezmann. Et les trois de devant, Benzema en pointe, et sur les côtés,
Mbappé, Coman ou Dembélé.
Et Mbappé. T'as pas une bonne équipe,
hein? C'est ce que dit Jérôme, oui.
Ah oui, c'est ce que je te dis.
Ouais, vous êtes d'accord, oui.
Oui, mais sauf
que... Est-ce que là, dans cette configuration-là, ça te met en péril d'un point de vue de l'équilibre de l'équipe? Eh bien, moi, je ne suis pas sûr.
Ces latéraux-là, les latéraux qui nous ont rendus champions du monde, qui ne sont pas des latéraux qui montent beaucoup.
Oui, et qui ne sont pas
des latéraux, en plus.
Voilà, c'est des défenseurs de départ à la base.
Et on l'a vu, pour récupérer le ballon, dire Coman, en club, il est bien passé pour le savoir, il bosse beaucoup, donc il fait des efforts. Griezmann, c'est moins qu'on puisse dire, on lui reproche même par moment d'être trop bas. Donc il y aura pas. Mbappé va peut-être s'oublier, côté gauche, ça peut être le problème. C'est pour ça que l'animation, tu peux la faire différemment. Ouais. Et moi,
défenseur qui a Mbappé face à lui, il prend pas beaucoup de liberté quand même.
Oui, il va pas beaucoup monter, sur le.
Parce qu'autrement, il lui faut une épuisette pour l'attraper.
Ouais, mais ça dépend. Donc, ça dépend du profil. Regarde, si tu joues l'Italie, c'est Florenzi face à toi. Tu crois que Florenzi va se dire c'est Mbappé, donc je vais faire que défendre? Non, Florenzi, ses caractéristiques, c'est aussi de contrer l'adversaire.
Tant mieux.
Ah oui,
mais s'il monte, il ne reviendra jamais, Florenzi, ça on le sait.
Ouais, c'est vrai.
Il fait l'aller, mais pas le retour, c'est sûr. Hein.
T'as raison, mais Didier Deschamps, comme il voit les choses, et je le sais parce que je l'ai eu, il n'a pas évolué de ce côté-là, c'est quand il place une équipe, en effet, il te place avant tout une structure défensive en place en disant là. Défensivement, on va poser des problèmes à l'adversaire quand ils vont avoir le ballon. Sauf que moi, je pense, pour aller dans ce qu'il vous a expliqué lundi, c'est que si tu veux jouer différemment, maintenant, au lieu de réfléchir en disant défensivement, je vais poser des problèmes à l'équipe, avec le ballon, je vais poser des problèmes à l'équipe adverse. Et si il passe le cap, et franchement, je te dis ça parce que nous, ça remonte. C'est sûr que là, je te parle de quelque chose. Il y a quasiment 20 ans, un peu moins de 20 ans. Mais au départ, c'est la stratégie qu'il mettait en place. En plus, c'est un jeune entraîneur. Donc, d'autant plus, il était focalisé sur la structure de l'équipe, l'aspect défensif. Mais au fur et à mesure, quand il a vu que ça roulait tout seul, là, il a lâché.
Jérôme, à Monaco, il n'avait pas les mêmes joueurs qu'en équipe de France.
Non, mais je te parle dans la prise de risque offensive. Alors,
Jérôme, moi, je viens de suivre sur le changement de Deschamps et tout, mais dans ce cas, qu'il aille au bout des choses. Contre le Pays de Galles, ça, il aurait pu mettre 4 joueurs offensifs, il aurait pu se lâcher.
Ouais,
s'il ne le fait pas là, je ne suis pas sûr qu'il le fasse.
Moi, c'est vrai, tu as raison. Bon. Après, peut-être qu'il voulait donner du temps de jeu à certains, qui en auront moins. Un mec comme Tolisso en avait besoin. Peut-être Kanté n'a pas pu jouer. Il y a des joueurs, les joueurs de Chelsea n'ont pas été alignés. Peut-être qu'il y avait des interrogations aussi là-dessus. Là, la réponse qu'on va avoir, c'est contre la Bulgarie. La Bulgarie, c'est le dernier test. C'est sûr que s'il nous ressort ces trois milieux de terrain avec Rabiot axe gauche, t'es sûr qu'à l'Euro, il partira comme ça.
Il y a peut-être un autre aspect, ça vient peut-être de l'état d'esprit. Écoutez Didier Deschamps, aujourd'hui, qui donc a donné une interview à BFM TV, qui a combattu plusieurs idées, notamment sur... Alors, il a ni la France est favorite, mais attention, puisque quand on est favori dans le sport français, c'est compliqué. Du coup, on a l'impression qu'il combat toute cette enflammade qu'il peut y avoir autour de l'équipe de France. Écoutez le sélectionneur.
Je ne peux pas calmer l'environnement extérieur qui, aujourd'hui, j'imagine, est très positif. Avoir confiance, oui. Avoir de l'ambition, être compétiteur, oui. C'est pas, surtout pas s'installer dans un dans un confort, et ils le savent, je leur ai déjà dit, je leur redirai, au-delà de la qualité individuelle, voilà, il y a la force collective qui est au-dessus de tout, et de par les adversaires qu'on aura en face de nous, la qualité ne suffira pas, même s'il y en a qui peuvent penser aujourd'hui, on n'a même pas rentré sur le terrain, on a déjà gagné les matchs, mais surtout pas. Et le sportif français, en général, il est jamais performant lorsqu'il est dans cette situation-là.
Voilà, c'est peut-être un élément pour expliquer la petite frilosité de dire, voilà, comme on a ce potentiel, on n'oublie pas quand même qu'il faut de l'équilibre, qu'il faut mettre trois milieux de terrain, voilà.
Oui, mais sauf que ça passe par l'évolution aussi, et je suis désolé, mais là où je suis un peu en contradiction avec Didier, c'est que ce groupe, il est pas récent, même s'il a évolué, mais cette équipe qui veut gagner les compétitions et qui est pas loin, on a fait finaliste de l'Euro en France, donc il y a 5 ans maintenant, il y a 3 ans, on a été champion du monde. Donc les joueurs ont montré qu'ils arrivaient à se remettre en question, et même sur les matchs de préparation, alors tout n'a pas ou de qualification là pour la Coupe du Monde ou pour l'Euro, tout n'a pas été parfait. On était les premiers à dire ouais, par moment on s'endort, mais les résultats ont été là. On a très peu perdu. On a souvent gagné, on a été une machine, et ça, c'est quand même quelque chose. Ça montre l'état d'esprit. On a souvent gagné les matchs grâce à l'état d'esprit, hein, Jean-Louis.
Bien sûr.
Il faut pas. Après.
Il ne veut pas perdre ça, en fait, Deschamps.
Mais il va pas la perdre, parce que il a les armes là-dessus, c'est le meilleur, c'est un génie là-dessus. Après, lui aussi, il doit aussi comprendre que il a ces armes-là, et qu'il fasse confiance, s'il joue avec une équipe plus offensive, qu'il fasse confiance aux joueurs qui sont placés sur le terrain, qui vont prendre plus de risques offensivement, pour que ces mecs-là ne s'oublient pas défensivement. Et moi, je suis persuadé que s'il arrive à mettre ça en place, eh ben, on fera beaucoup, beaucoup de mal aux adversaires.
Très bien.
Et puis surtout que, attention, l'Euro, le premier match par exemple, s'il a des incertitudes sur le premier match, franchement, on risque pas grand-chose. Le premier match, mais j'espère qu'on fera pas. Vaut mieux bien démarrer la compétition, on est d'accord. Bon, et quand même, c'est les 3 meilleurs premiers qui passent.
Les 4 meilleurs premiers sur 6.
Oui, du moins, même le 3 en finissant 3e, on peut passer.
Les 4 meilleurs 3e, pardon.
Voilà, oui, les 4 meilleurs 3e sur 6. Ah, franchement, normalement, il faut le faire si on se fait éliminer au premier tour. Donc, tu peux prendre encore plus de risques. Et imagine, en prenant des risques, tu gagnes en Allemagne.
Il n'en prendra pas.
Ouais, je pense pas qu'il en prenne, mais bon. Bon, alors attendez. Dans un instant, entretien avec Olivier Giroud. On continue le débat également en vous donnant la parole. Au 32-16, est-ce que ce serait du gâchis de ne jouer qu'à 3 offensifs? Mais avant tout cela, Roland Garros, Eric Salio nous appelle pour un résultat important. Salut Eric.
Les Français.
Non, il n'y a pas de Français, il n'y a pas d'Eric. Il est où Eric Salio?
Enfin, il en a marre.
Mais celui-là, il est incroyable.
Il en a marre, il est infernal. Il est pas là. La future politique sportive de la Fédération française de tennis.
Non, mais là, on attend quand même.
Sortir des pépites.
Vu les résultats qu'on a eu du tennis français.
Il devait nous annoncer la qualification de Roud.
Bah, il y a eu des changements à la tête de la Fédé, là, avec l'arrivée de Moreton. Il a changé. Mm-hmm. Donc, vous avez lu des interviews de joueurs qui ont des anciens joueurs qui ont des rôles importants aujourd'hui, la remise en question.
Je crois, oui.
Vous avez vu les critiques? Ouais, non, mais je sais pas.
Il y a pas de politique, il y a pas de remise en question
aujourd'hui. Il a un rôle important.
Ouais.
On est d'accord. Vous l'avez entendu parler?
Non.
Bah, c'est quand même bizarre.
Ils vont
parler quand?
Bah oui. Je ne sais pas.
Au lieu d'écarter peut-être les meilleurs entraîneurs qu'on a. Tu vois, un mec comme Thierry Champion, qui est un des meilleurs entraîneurs français.
Ouais.
Bah, ils l'ont écarté, non?
Je savais pas que Roten régalait aussi sur le tennis à ce point.
Bah non, mais voilà, je comprends pas.
Eric, ils ont aussi.
Dans un instant, continue le débat sur l'équipe de France.
Il est comme toi, normalement, il est à la retraite.
Avec Olivier.
Il y a que toi qui n'es pas à la retraite.
RMC.
18h-20h.
Roten régale. Jean-Louis Tour,
Jérôme Roten.
18h19, toujours dans Roten régale, bien sûr. Allez, Jean-Louis, on continue avec Jean-Louis Tour, Jean-Michel Larquet, bien sûr, toujours avec toi.
Et à 18h30, votre opposition hebdomadaire, messieurs, ce sera autour d'Antoine Griezmann. Tout à l'heure, ne ratez pas ça. Avant notre entretien RMC Sport avec Olivier Giroud, Malek est là au 32-16. On continue notre débat. Ne jouez qu'à 3 offensifs. Est-ce que ce serait un gâchis pour les Bleus? Salut Malek.
Salut Malek.
Salut, ça va les gars?
Ça va? En pleine forme. Et toi, ça va?
Ouais, ça va.
T'as hâte de démarrer l'Euro?
Ouais, hâte de démarrer l'Euro. Et Roten, je suis un canet. Ça te rappelle des souvenirs?
Ah bah oui, un petit peu, oui. Oh, voilà. Surtout pour toi, les souvenirs, non?
Ah, ils sont lointains, la Ligue 1, ouais, elle est lointaine.
Ouais, ouais.
Faut qu'on fasse une meilleure saison la prochaine. Ouais, par rapport à l'attaque des Bleus, moi je verrais bien 4-3-3, plus que 4 attaquants. J'ai peur qu'avec 4 attaquants, ils se marchent sur les pieds, avec une vraie pointe comme Benzema, et sur les côtés, des profils... Dembélé, Mbappé, Coman en priorité. Et derrière, un mec qui les alimente comme Griezmann. Je trouve que ce serait pas mal.
Et Benzema, il va sur le banc.
Non, Benzema.
Mais non, il l'a dit, il peut à la pointe, il a dit.
Ah, tu joueras en 4-3-3 avec, avec une pointe haute, du moins un Griezmann en numéro 10, c'est ça?
Exactement. Ah,
d'accord.
Ouais.
Ouais, ben ça change pas beau. En fait, après c'est le tableau noir et c'est ce que va demander Didier Deschamps. Moi vraiment, je pense tu peux avoir raison. Le seul souci, et on connaît Didier défendre sur la largeur avec Mbappé d'un côté et Coman de l'autre, il peut se poser des questions, se dire les joueurs ils vont permuter, ils vont s'oublier. Donc il y a un schéma dans ces cas-là qui est très clair, c'est que si tu joues à trois derrière, vraiment l'équilibre tu l'as beaucoup plus facilement et ça lui donne cette sécurité-là aussi sur les côtés. Donc je ne sais pas s'il va le tenter, mais ça te donnerait en effet la possibilité de mettre quatre joueurs offensifs. Parce que s'il ne fait pas ça, vraiment, et là je vous rejoins tous, hein, et Didier Deschamps contre l'Allemagne, on jouera à trois milieux de terrain, une base assez solide dans le cœur du jeu, et avec Rabiot côté gauche.
Merci Malek.
Ou alors on met un Rotten bis, on met des centres au cordeau.
Et c'est qui ça?
Mais c'est celui-là. Il faut le trouver encore, celui-là.
Ah oui, faut le trouver.
En fait, je vais te dire.
Thomas Lemar, il peut le faire, non?
Exactement. Dire dans ce rôle d'Adrien Rabiot, moi, c'est ce que je lui reproche, c'est que ça en ronronne un peu trop, qu'il joue latéralement, qu'il met pas assez de peps, il récupère pas assez le ballon, il vient pas s'incorporer assez, dans la ligne des attaquants, il donne pas assez de balles de but aux attaquants, il frappe pas assez, même si le dernier match, c'est sa frappe, du pied droit.
C'est une maladie pour les milieux de terrain, parce que pendant que tu parlais, et je ne prends pas les milieux de terrain qui marquait beaucoup de buts du temps de Platini, puisqu'il jouait, on va dire, 9,5. Mais même Vieira, à son époque, qui était quand même un joueur qui, défensivement, était extrêmement... Et Patrick, il a marqué beaucoup de buts. Il a marqué pas mal de buts.
Et Jean-Michel, sans aller chercher aussi loin, dire Matuidi. Et Matuidi a souvent été dernier passeur.
Vieira, il a mis 6 buts en bleu, hein, sur 107 sélections.
Ouais. Eh ben, c'est pas mal, hein. Il y en a certains qui mettront jamais 6 buts, hein.
J'ai cru qu'il en avait 25.
Je vais simplement te dire que sur les 60 premières sélections de Patrick Vieira, il est entré 20 minutes, hein.
Ah oui, d'accord. Bon, très bien.
Oh, c'est un but tous les 20 matchs, c'est bien. Voilà. Hein, c'est un bon ratio. Ouais.
Merci Malek d'être venu au 32-16.
Sur les 6 buts, je crois qu'il a mis 3 pénaltys.
À bientôt Malek.
Et 2 coups francs.
Salut Malek.
Allez, on y va. On parle du potentiel offensif des Bleus. Il y en a un qu'on oublie complètement depuis quelques jours, c'est Olivier Giroud. Alors, Nzonzi, figure-toi qu'on en parlera tout à l'heure dans le Multiplex Ligue 1. Donc, Captain, sois bien à l'écoute.
Tu me disais, il y a un blessé, il va peut-être le rappeler.
Non, je crois pas. Entretien RMC Sport donc avec Olivier Giroud qui a mené Mohamed Bouafsi dans la journée, donc celui qui pour l'instant n'a pas joué dans ses matchs de préparation, le champion d'Europe avec Chelsea, qui d'ailleurs est en pourparlers avec le Milan. Zlatan en a parlé aujourd'hui. Il s'est confié donc sur RMC, Olivier Giroud dans Rotten Régal.
Bonjour Olivier.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'il aurait dit le petit gamin de Tours, enfin le petit gamin qui a démarré à Tours et qui s'est fait recaler par un entraîneur qui aujourd'hui... on ne sait plus où il est. Qu'est-ce qu'il aurait dit, ce petit gamin, si on lui avait dit que 15 ans après, il aurait gagné la Champions League, la Ligue Europa et la Coupe du Monde?
Bien sûr que 15 ans après avoir commencé, c'est une immense fierté. J'aurais pas cru gagner autant de trophées et avoir autant d'émotions. Mais c'est la beauté du sport quand on se donne les moyens, quand on y croit. Et pour moi, rien n'est impossible et il faut vivre ses rêves et ne pas rêver sa vie. Donc si je peux être un bon exemple, voilà, je transmets ce message. Donc voilà, c'est une immense fierté tout ce qui m'arrive aujourd'hui pour mes proches, ma famille, ceux qui me soutiennent.
Il y a un joueur qui a fait son retour en équipe de France, c'est Karim Benzema. Comment vous avez vécu son retour, Olivier?
Ouais, je l'ai bien vécu. C'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Ça veut dire que... on a une arme supplémentaire offensivement, ça augmente nos chances d'être performants et j'estime que c'est bien pour le collectif. Voilà, après, encore une fois, on va être très attendu en tant que vice-champion d'Europe et champion du monde. On a quand même un certain statut à défendre, à assumer et toutes les armes sont les bienvenues, donc évidemment que Karim est bienvenu.
D'ailleurs, J'ai l'impression, dans les échanges que j'ai eu avec Didier, c'est qu'il n'a appelé personne, qu'il n'a souhaité appeler personne pour annoncer le retour. Il me l'a démenti d'ailleurs. Comment vous auriez réagi s'il vous avait appelé?
Malheureusement, il ne m'a pas appelé, donc on ne pourra jamais savoir ce que j'aurais dit. Donc voilà, non, c'est... pour être plus sérieux, non, j'ai pas eu le coach au téléphone, et qu'est-ce que j'aurais pu lui dire à part approuver son choix, parce que c'est lui le boss et c'est lui qui fait l'équipe, donc il a assez d'expérience, il l'a montré dans le passé, donc voilà, j'ai rien à rajouter par rapport à ça.
Olivier, moi je le dis, hein, j'ai jamais vu un karting être aussi fort. Vous allez en discuter avec lui?
Ah non, 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 j'ai aucune rancune par rapport à ça, je l'avais déjà dit, donc aucun souci.
Merci Olivier.
Et il a tellement pas de rancune, Olivier Giroud, qu'il a ajouté, si on gagne l'euro, on fêtera ça sur un circuit, dans un karting.
Ouais, voilà. C'est un peu d'humour, c'est bien. Non, non, mais vaut mieux que ça se passe comme ça. Après, on demande pas que ça soit les deux meilleurs amis au monde, mais... il faut apprendre à vivre ensemble. Je pense qu'ils sont assez intelligents l'un et l'autre. On l'a vu, Karim est arrivé pas sur la pointe des pieds, parce que ça reste Karim Benzema, mais avec une communication parfaite. Et tous les joueurs qui ont communiqué sur le retour de Karim Benzema, ça a été aussi parfait en termes de communication. Ça a bien été géré par Didier Deschamps, tout ça.
Exactement. Eh oui. Ça là-dessus, il est bon.
Ah oui, oui.
C'est vrai.
Ah, ça là-dessus.
Ah bah, sur le management humain. Ah oui. C'est le plus
je crois que c'était un petit tac là, Didier.
Sur la langue de bois.
Bah, oui. Sur le jeu offensif, parfois on reste sur notre faim.
Et ouais, mais c'est pour sur ça qu'il a besoin de conseils, et je sais qu'il m'écoute.
Ah oui, vendredi, tu peux donc toujours poser la question et tu peux attendre très longtemps la réponse.
Dans une seconde, face au Pays de Galles, Griezmann a-t-il rappelé à tout le monde qu'il était le leader incontesté de l'attaque des Bleus? C'est le débat entre l'élève et le maître dans une seconde. 32-16 pour participer, à tout de suite.
RMC.
18h-20h.
Roten Régal. Jean-Louis Tour,
Jérôme Roten.
18h31, toujours dans Roten Régal. Allez, on commence la deuxième demi-heure.
Exactement, et la deuxième demi-heure commence par le programme du Journal Moyen avec Adrien Aigouin. Salut Adrien.
Bonsoir messieurs. Alors, une voix du foot sur RMC devient une star du rap.
Jean-Michel Larquet.
Ce que je vous dis là, c'est vrai. Là, il n'y a pas de rigolade.
Star du rap.
18h45.
Les captains.
Une voix du foot sur RMC devient une star du rap.
Il dément pas, c'est
du, du bon rap, du rap tendance. Hein. On est dans quelque chose à la mode là.
Bravo, bravo Jean-Michel.
Révélation de cette voix du foot qui se lance dans le rap.
J'ai rappé moi. J'étais rappé, oui, mais pas rappé, non.
Dérapé, oui, quelques fois.
Oui, dérapé, oui, ça je sais, oui.
A tout à l'heure, Adrien, merci. C'est parti, le clash.
Et allez,
RMC,
maître sage, Jean-Michel Larquet.
Je me suis régalé comme.
Il n'y a pas mauvais élève, il y a mauvais maître.
Mais pourquoi tu m'as parlé parlé des États-Unis.
Mais si ces idées-là, par contre. Pardon.
Qu'est-ce qu'ils disent?
Bravo, Jérôme.
Les grands esprits se rencontrent, n'est-ce pas?
Le maître contre l'élève.
Oh, il était fatigué, il est temps que la saison se termine.
Bon, vous m'avez dit que c'est la dernière aujourd'hui, Jean-Louis me dit non, il y en a encore une.
Bah oui, mais en spécial Euro, vous serez pas
oui,
par
oui,
l'événement,
c'est bon.
Vous inquiétez
ouais.
pas. C'était magnifique. Alors Jérôme, cette semaine, après le match des Bleus, la victoire face au Pays de Galles, tu as dit dans l'after, le vrai leader de l'équipe de France, c'est Griezmann.
Exactement.
Quand je pense que certains voulaient le mettre sur le banc...
Oh.
Oui, t'as
c'est
dit
vrai,
ça aussi.
C'est vrai, c'est vrai. Il y en a qui se sont sentis visés.
Tu t'es senti visé?
Ah, complètement. Ah bah oui, mais... Ah bah, j'allais faire une dépression. Non, mais j'étais en pleine déprime. Je suis sous Prozac, là.
Ouais. Non, qu'est-ce que tu voulais dire sur le sujet, alors?
Non, c'est... Écoute, quand j'ai évoqué la possibilité de jouer avec... ou plutôt avec une équipe différente, un système différent... Griezmann n'avait pas fait le match contre la... Par définition, il n'avait pas fait son match contre le Pays de Galles.
Non.
Grande équipe d'ailleurs que le pays du Pays de Galles.
Voilà. C'était le soir de la liste que t'as dit ça.
Voilà. Comment ?
C'était le soir de la liste. Oui. Je reprécise la chronologie
des faits. Donc il y a bien longtemps. Et finalement, comme je ne suis pas quelqu'un qui regarde le football, et notamment le football espagnol et le football français, les autres c'est un petit peu plus compliqué pour moi, mais le football espagnol et le football français par le petit bout de la lorgnette, ben, j'ai vu quand même que depuis deux ans, c'est-à-dire depuis deux ans et demi, là, le titre de champion du monde, il y a eu, je le concède, après le titre de champion du monde, et j'ai regardé un petit peu ce qui s'était passé. Certes, on est parti en Turquie, c'était les premiers matchs, je crois, en 2019, quelque chose comme ça, où notre ami Griezmann était plutôt bon. Alors que contre la Turquie, nous n'avons gagné ni à l'aller, ni au retour. Très bien. Et puis, j'ai pris la saison 2020, là où Antoine Griezmann, que je considère comme un bon joueur, hein, la question n'est pas là. Antoine Griezmann a connu quand même d'énormes difficultés du côté du Barça. On n'y reviendra pas, des difficultés sportives et extra-sportives. Et quand il revenait à l'équipe de France, on se disait tous, ah, il revient en équipe de France et on va avoir quand même un Griezmann qui va se remettre dans le bon chemin ou dans le droit chemin. Et alors, là j'ai tapoté un petit peu, parce que je ne suis pas un grand spécialiste, sur les matchs de l'équipe de France en 2020. Alors je n'ai pas pris les matchs amicaux, j'ai juste pris les matchs de cette fabuleuse compétition qui est la Coupe d'Europe des Nations, c'est ça?
Oui, c'est ça, la Ligue des Nations.
Suède-France. Et c'est pas moi qui le dis, hein. J'ai pris au hasard des petits commentaires. Concernant Griezmann, match moyen avec un pénalty manqué. Encore un. France-Croatie en 2020. Note de 5 sur 10. Commentaire. Première mi-temps, très pauvre. France-Portugal.
Il marque, 2020. Hein, France-Croatie.
Oui, non, mais.
D'accord.
Mais,
tu dis les commentaires que tu veux, quoi, visiblement.
Oui.
Mais, bon. Mais il paraît que marquer des buts pour un attaquant, c'est pas important. Hier, nous avons eu ce débat avec ton acolyte.
Ah bon?
Oui, c'est pas important.
Il a dit ça.
On va pas refaire ce débat-là.
France-Portugal 2020. Non. France-Portugal 2020. Pas au rendez-vous. Griezmann a resservi une cuvée 2020. Hésitant, ralentissant le jeu, ce Griezmann fait mal à voir.
Il y a eu 0-0, oui. D'accord. OK.
Croatie-France. En panne de confiance, ce Grisou.
Il marque
encore. Il ne pèse pas sur le jeu. Oui, mais c'est pas important les attaquants.
Ah d'accord.
Il est infernal. C'est pas possible.
Et France et Suède 2020, influence dans le jeu nulle. C'est un problème quand tu t'appelles Griezmann. Donc moi je ne remets pas en cause la qualité du Griezmann, Jérôme. Je remets en cause ses performances au cours de la saison passée. De ses performances en bleu et ses performances en blanc ou granat. Donc, excusez-moi, mais est-ce que j'ai le droit, à un moment ou un autre, de considérer que le Griezmann que j'ai vu en 2020, et en espérant que ce ne soit pas celui que je vais voir en 2021, que celui que j'ai vu en 2020 dans le son club et dans l'équipe nationale m'interpelle, que ses performances m'interrogent, et qu'à ce titre-là, je me dis... S'il continue dans ce sens-là, il va falloir évoquer, il va falloir penser à autre chose. Voilà ce que je veux dire avec Griezmann. Si nous on retrouve le Griezmann, même pas de la Coupe du Monde, parce qu'on en a beaucoup fait sur la Coupe du Monde, je pense qu'il y a des joueurs qui ont été plus importants que lui. Mais à ce jour, Jérôme, je ne sais pas, mais si tu es un entraîneur, est-ce que tu préfères avoir ton équipe à choisir? Tu préfères avoir Mbappé ou Griezmann? Tu préfères avoir... Kanté ou Griezmann? Tu préfères avoir Benzema ou Griezmann? Donc, je considère que dans la hiérarchie qui était établie en 2018, Griezmann n'a plus tout à fait le même rôle qu'il avait à ce moment-là. Voilà. Et je m'interpelle et je m'interroge.
Donc, c'est plus le leader à contester de l'attaque.
Mais je ne lui souhaite que du bien. Je lui souhaite surtout de revenir à un niveau qui était le sien avant 2018.
Le niveau qu'il avait avant 2018, déjà, on ne pourra pas le juger parce que son rôle a évolué. Et c'est pour ça que je dis que ça reste le leader de cette équipe. C'est comme ça que le place Didier Deschamps, ne serait-ce que par rapport à son rôle sur le terrain, à son poste, où il joue quasiment dans un poste de numéro 10, avec beaucoup de liberté. Alors cette liberté, il a eu du mal à trouver sa place. Et là, je te rejoins Jean-Michel, il y a eu des matchs où on a été déçus de son rendement, parce qu'on attendait plus. Mais des matchs où collectivement l'équipe de France était un peu moins bonne. Tu fais référence au match de France-Portugal, par exemple le 0-0, où c'est vrai qu'on ne s'est pas éclaté, on n'a pas vu un grand Antoine Griezmann. Et peut-être que lui, le rôle qu'il a aujourd'hui de leader technique et de leader des offensives de l'équipe de France n'a pas été capable de faire passer un cap à cette équipe sur ce match-là ou sur d'autres matchs. N'empêche qu'il est souvent buteur. Toi, tu les oublies les buts, mais moi, je trouve que c'est important. Le fait d'être buteur.
Je les oublie pas.
Mais
c'était, même... c'était évidemment.
Non, mais bien sûr.
C'était évidemment une boutade.
Bien sûr.
C'était évidemment
une boutade. Même quand certains te disent son année à Barcelone n'est pas bonne, bah, moi, je suis désolé, elle n'est pas si mauvaise que ça. Déjà parce que.
Non, mais. Elle est. Je regarde tous les matchs.
Je sais, non, mais moi aussi, j'en ai regardé. Pas tous, mais j'en ai regardé pas mal.
Et il a été en grande difficulté.
Oui, pas la deuxième partie de saison.
Sauf que Jean-Michel, encore une fois, j'en reviens.
Quand tu t'appelles Griezmann et que tu fais une demi-saison, Jean-Louis, tu peux pas t'en contenter.
Tu dis toute la saison n'est pas
Jean-Michel,
bonne.
Jean-Michel, je pense très honnêtement.
Non, j'ai parlé de l'année 2020 là.
Oui, non, mais moi je pense que très honnêtement, Antoine Griezmann.
Jean-Louis, t'as pas, tu oui, m'as 2020 pas écouté. C'est bon alors, c'est d'accord.
Bon, tu m'écoutes Jean-Michel ou pas?
Oui, mais c'est Jean-Louis, il écoute personne.
Mais t'as fait un monologue de 8 minutes. Et je t'ai
il
écouté.
A pas écouté Malin qui
n'aurait dit Roland Courbis non plus.
Fini Jérôme.
Il y a Roland, et Roland il est jaloux. Il dit attends, t'as laissé parler autant Jean-Michel que
alors,
ça. Bon, non, mais pour finir. Sur Griezmann à Barcelone, on peut reconnaître quand même une chose, c'est que depuis qu'il est arrivé à Barcelone, sa meilleure période, elle est là, sur les dernières semaines, sur les six derniers mois.
D'accord.
Sur les six derniers mois, et on va le faire un résumé sur sa saison avec Barcelone, qui est une saison compliquée avec le contexte hockey, avec une équipe qui cherchait sur les premiers mois. Il a quand même eu une quinzaine de buts à Barcelone. C'est pas non plus exceptionnel, du moins catastrophique. Donc ça montre, et puis Barcelone ne gagne plus les matchs comme à une certaine époque, 4-5-0, ils sont souvent dans la difficulté. Donc ça monte. Et il a fait pas mal de passes de but aussi. Donc il a réussi à passer le cap à Barcelone. Je trouve qu'en effet, on récupère aujourd'hui et depuis 2-3 sélections, on voit qu'Antoine Griezmann est beaucoup mieux. Et là, j'ai adoré son match contre le Pays de Galles. Même si c'est que le Pays de Galles. Mais où j'ai adoré, c'est de sa position.
Oui.
On n'a pas vu un Griezmann qui vient décrocher sur la ligne des milieux de défensifs.
Mais Jérôme, mais question, Jean-Michel, toi, parce qu'il n'a pas été bon en 2020, tu veux le mettre sur le banc aujourd'hui alors qu'il est très bon.
Est-ce qu'à un moment donné, on peut se poser la question d'un éventuel d'une option B? Est-ce que ça vous dérange les neurones?
Mais moi ça me est-ce dérange parce que tu mets en mettant un plan B sans
Antoine
Griezmann.
Pas d'option B pour les gardiens, mais non, pas d'option B pour les attaquants.
Mais déjà je trouve que t'es injuste avec lui parce que il a quand même cette qualité technique, cette vision du jeu qui fait souvent la différence. Et je suis désolé, quand tu lui mets des bons joueurs de ballon et des mecs qui peuvent dévorer aussi les espaces comme Mbappé, quant à Benzema avec lui, on l'a vu, ne serait-ce que sur une heure de jeu, ils ont joué une heure à peu près parce que Griezmann est sorti en deuxième mi-temps. Bah franchement, il parle le même football, le même langage. Ils se font des remises et même Mbappé, souvent, il a ce rôle-là où peut-être aussi rassure les grands joueurs qu'il a autour de lui. Et c'est pour ça que pour moi, un plan B sans Antoine Griezmann, bah, je trouve que là, tu mettrais l'équipe de France en difficulté.
Comme si tu faisais un plan B sans Platini ou sans Zidane.
Bah oui, il a
tu
ce rôle-là.
Un peu, mais,
ouais,
si mais c'est le leader d'attaque, tu fais pas un plan B sans ton leader d'attaque.
Ouais, et puis c'est quand même rare dans une sélection et encore plus dans le foot aujourd'hui que tu joues avec un numéro 10 comme ça. C'est vrai. De moins en moins, on a des vrais numéro 10 comme ça. Et c'est vrai qu'Antoine Griezmann a ce rôle-là aujourd'hui. Donc en plus, il met des beaux buts.
Dites-moi, écoute, à Saint-Etienne, Robert Armand, il faisait des plans B sans l'arquer. M'étonnerait.
Je sais pas, on va lui poser la question.
Ah bon?
Et quand il n'était pas content, il me virait. Hein, ça, je te l'ai
dit. C'est ça, non. Ça a dû arriver souvent, oui, bien sûr.
Bon, ça durait pas longtemps. Mais parce
ça durait pas longtemps.
Parce il se rendait compte que le vide était
énorme, bien sûr.
Il allait dans son bureau, pleurait un petit peu, il tapait sur l'épaule, il disait allez, c'est bon. Je sais que t'étais comme ça, Jean-Michel.
Vous allez savoir dans une seconde qui est cette voix du foot d'RMC présente dans un club.
Jean-Michel, non?
À tout de suite, vous allez voir.
RMC. 18h-20h. Roten Régal. Jean-Louis Tour.
Jérôme Roten.
18h47. Toujours dans Roten Régal, bien sûr, sur RMC avec Jean-Michel Larquet, Jean-Louis Tour. Jean-Louis, après 19h, c'est le multiplex, hein, bien sûr.
Exactement.
On va rester dans l'actualité.
C'est le rendez-vous Ligue 1 de Roten Régal tout au long de la saison et donc on vous tiendra au courant avec nos correspondants en région de tout ce qui se passe sur le front du Mercato. Ce sera tout à l'heure. Tout de suite, le journal moyen, Adrien.
À la une du journal moyen de la semaine dans Roten Régal sur RMC.
Il rigole déjà.
Une voix du foot sur RMC devient peut-être une star du rap, c'est une vraie info. Éric Dimeco, Jérôme Roten en mode premium quand il y a la Ligue des Champions, c'est toujours comme ça. Et puis si vous êtes sage, un petit charbonnier, je sais que vous aimez bien Lionel Charbonnier. Il est 18h.
Ah oui, il est bon.
Ça va
sur RMC, il est 18h passé de 48 minutes.
En direct de la rédaction d'RMC Sport.
C'est le journal moyen de Roten Régal.
Adrien Aigouin.
On a vécu tous ensemble la finale de la Ligue des Champions, City-Chelsea sur RMC Story. Jeannot Séguier et Jérôme Rotten aux commentaires. 20h57, les équipes arrivent sur la pelouse et Jérôme Rotten est impatient. Une histoire de couture.
On a vu déjà l'atmosphère monter dans les rues, aux abords du stade et maintenant dans le stade. Donc voilà, on a hâte vraiment que les deux équipes en découdent.
Ouais, je découde, tu découdes, il découde, nous découdons.
Nous levons le coude, vous levez le coude.
Et je sais que tu t'en rends compte au moment où tu le dis, Jérôme, tu dis c'est trop tard.
Et le découdons.
C'est journal moyen, voilà, c'est fait. RMC Sport 1, alors là c'est intéressant. Éric Dimeco au commentaire avec Jérôme Sillon, parce qu'on a vu partout. C'est la mi-temps, l'arbitre siffle la mi-temps, et là il y a Éric qui est en mode machine professionnelle, analyse.
Là il y a plus de matière.
Écoutez l'analyse de la première période par Éric, c'est fluide.
1-0 le but de Kai Havertz, son premier en Ligue des Champions, et c'est une surprise à la mi-temps de cette finale.
Surprise par rapport à ce qu'on attendait avant le match, mais pas surprise.
Ce match vous est présenté par Mastercard.
Qu'est-ce qui va s'inventer? Voilà, ça, un truc comme ça, Eric, il vous en parle pendant une semaine derrière.
C'est vrai.
C'est intéressant comme analyse. Il n'y a pas que la Ligue des Champions dans la vie. Il y avait aussi les barrages Ligue 1, Ligue 2. Le barrage Ligue 1, Ligue 2, Nantes-Toulouse. Lionel Charbonnier nous parle du gardien nantais Alban Lafont. Une histoire d'eau.
Bien. Oui, il est bien revenu, mais il a eu un vrai passage, énorme passage à vide, qui a été préjudiciable d'ailleurs aussi. Il a été à l'image de ses coéquipiers, mais j'attendais à ce qu'il. Des fois, tu attends un gardien qui leur maintienne, qui maintienne la tête de l'eau quand ses copains sont un petit peu. Un petit peu dans le dur.
Et voilà, bien sûr,
sans transition.
Dans le dur et hors de l'eau, oui.
Dans 7 jours. Dans une semaine, c'est l'Euro, donc jingle.
Avec Faye, Mbappé qui va frapper.
Tout le monde est à fond déjà, une semaine de l'Euro, on est impatients. Coach Courbis nous parle sur RMC dans TOTF, Top of the Foot, de l'animation offensive des Bleus avec un nouveau joueur.
On va mettre Griezmann côté droit, on va mettre Mbappé côté gauche, et on va mettre Benzema numéro 9. Et mécanisme donc de cette organisation, c'est jouer sur Mbemba,
le meilleur joueur du monde. C'est contre. Tu associes Mbappé et Benzema, c'est le meilleur joueur du monde.
Mbemba, voilà. C'est pas mal.
Avant l'Euro.
T'as coupé très vite quand même.
J'ai coupé très vite, bien entendu.
Il s'est pas rattrapé en plus.
Avant l'Euro, sur RMC, on a reçu Nicolas Anelka, l'Euro 2000. Manu Petit est présent, son coéquipier. Manu nous parle de Nico, de ses qualités.
Moi, Nico, c'est un des plus grands joueurs avec qui j'ai joué. Quoi. En termes de qualité intrinsèque, il avait une rapidité gestuelle.
Intrinsèque, oui.
Oui, c'est ça.
Sans transition. L'Euro, cette année, rime avec musique. Alors là, on entend en ce moment l'hymne officiel de l'Euro. Martin Garrix, Bono, U2, c'est pas mal quand même.
C'est
sympa. On a beaucoup parlé de la chanson de Youssoupha, qui parle des Bleus.
Écris mon nom en bleu.
Et là, une nouveauté avec une belle surprise en prime dans cette nouveauté. Le rappeur, producteur, parolier Vald. C'est un rappeur très connu dans le monde du rap. Fait beaucoup de scènes, beaucoup de festivals. Il cartonne. Il a du succès. Vald.
Oui, on imagine.
Quelqu'un qui monte vraiment et qui est très apprécié, qui a de très bonnes critiques. Vald a publié une chanson sur le foot, là, à l'occasion de l'Euro.
Sur la blague de Vald.
Attention, parce que ça va être énorme. Ce que je vais vous révéler, c'est énorme. Le clip s'appelle Footballeur. D'accord ? Footballeur, c'est du rap, c'est pas mal. Il sort ça pour l'Euro, on écoute.
J'ai toujours rêvé d'être footballeur.
C'est l'histoire d'un jeune homme qui veut être footballeur, et dans le clip on le voit évoluer, il devient footballeur, il réussit, il a des difficultés. Il parle du métier de footballeur. Le clip est sympa, surprise à la fin. Ça se passe bien pour Vald qui joue au foot et il marque des buts. Et au moment d'un but, écoutez ce qu'on entend au moment du but.
Ah. Je suis plus refait que certains footballeurs.
Le débordement de côté gauche de Suico, le centre est parfait au second poteau.
Non.
La frappe de Vald. Oh, quelle frappe de Vald. Pleine lucarne, quel but.
C'est notre Jeannot Séguier qui était sollicité par un rappeur à la mode, Vald.
Moi, je m'attendais à le voir. Il y a la pub pour Cassoulet qui va sortir.
Mais non, mais il a dû prendre un chèque énorme, Jeannot, là. C'est un truc de fou. Attendez, c'est pas fini. La fin du clip, parce qu'à la fin, Vald prend un carton rouge.
C'est
ça, Vald. Il prend le rouge.
En plus,
on écoute.
C'est le même agent que certains footballeurs.
Il prend le rouge.
Vald, non, Vald, pas ça. pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait.
Qu'est-ce que c'est bien joué. Il cite des grands auteurs.
C'est exceptionnel.
Bravo Jeannot.
Allez voir le clip sur rmcsport.fr. Ouais.
Et dis-moi,
mais c'est on voit Jeannot.
Adrien.
Oui,
le Gret, il a trouvé ça comment, le
Gret? Il faut le solliciter.
Il n'est pas au courant.
Il n'est pas au courant. Oui, c'est
son service commercial.
Jeannot, nouvelle star du rap.
Bravo Jeannot.
Jeannot est dans le clip.
Tu n'as
pas vu?
Non, il est à la buvette.
Il prend toute la
place. Il prend toute la place.
On embrasse Jeannot.
Bravo Jeannot, phénomène.
Comment tu as pu dire, Adrien? C'était pour ménager le suspense que tu as dit. Il y a une des voix du foot sur RMC. Jeannot, c'est la voix du foot.
C'est pour le teasing, c'est la voix du foot.
C'est vrai que
tu savais qu'on aurait trouvé
la peur à passer
dans la voix du foot. Voilà. Jeannot qui sera là, évidemment, fidèle au poste,
bien
au commentaire des matchs des Bleus pendant l'Euro.
On a hâte.
Lui qui a commenté 2582 matchs.
Il est chanté,
on va voir.
Là, il a 2725.
Je sais pas, mais il les compte, les matchs. Il pourra nous le dire.
Il compte double, des fois, les matchs.
Ah oui, il y a des matchs compliqués. Mais il les fait vivre avec la même passion.
Parce que je suis sûr que le chiffre sera rond si on va en finale de l'euro.
Tu vois, par hasard.
Écoute, là, ça sera le 3000e.
Ah bah c'est le 1500e.
Alors
bah voilà.
Oh, 1500e alors que il y a 100 matchs de ça, c'était le 1000e.
On salue Jeannot. Oui, mais tu sais, il se passe toujours des trucs sur les finales de grandes compètes.
C'est vrai.
En 2018, bah t'étais là aussi.
Oui.
On a fêté la dernière de Jean-Michel Larquet, voilà, c'était hyper émouvant.
Et en plus, rigole pas, mais je crois que Jeannot avait fêté sa 1000e
comme disque rayé, arrêté, c'est pas possible.
Mais excuse-moi Jean-Michel, t'as joué avec notre émotion avec Jérôme ce soir-là, on avait les larmes aux yeux.
Mais franchement, c'est dur.
Et après, t'es revenu.
Ça devient insupportable. Je vais prendre ma retraite.
Ah non, pas une deuxième fois.
Non. Ouais, mais là, je peux dire qu'on pleurera pas cette fois.
Et puis là, compte pas sur Roland pour aller te rechercher.
Vous étiez à la rue, vous m'avez demandé de revenir. Vous étiez à la rue, bande de clowns.
N'importe quoi, il fallait remplacer Roland qui est parti à Caen.
Mais
pour une bien belle aventure.
Tu sais que dans les.
Tu es revenu depuis, hein.
Et tu sais que dans les négos de contrat, franchement, entre Jean-Michel et Roland,
c'est le plus fort.
Ah, mais c'est les plus forts.
Les deux, c'est les plus forts.
Roland me disait que si l'équipe de France était championne d'Europe, c'était plus deux de contrat encore.
Sachant que le contrat en 2030.
Ouais, déjà il est en 2028. Donc là il ira jusqu'en 2030.
Ah bah c'est les plus forts si tu veux. Dans une seconde, le multiplex Ligue 1. Lyon.
Ça fait du bien, tiens.
Bravo les vieux.
Merci Adrien. Bravo. Lyon est-il capable de se réinventer?
Bravo Adrien.
Sans moyens financiers, 32-16 pour débattre des infos mercato à Lyon, à Saint-Etienne, à Bordeaux, à Nantes ou encore à Caen. C'est dans une seconde, à tout de suite.
RMC. 18h-20h. Roten Régal. Jean-Louis Tour,
Jérôme Roten.
19h01, toujours dans Roten Régal pour la deuxième heure, bien sûr, sur RMC avec Jean-Louis Tour, Jean-Michel Larquet. Jean-Louis, allez, c'est reparti, le multiplex. On va refaire un tour avec nos correspondants préférés.
Exactement, et puis on
nous ont manqué.
Exactement, on sera à l'étranger également. Multiplex européen ce soir, Espagne-Portugal et Italie-République tchèque. Fred Hermel, Johan Crochet, notre spécialiste du foot italien, ils seront avec nous tous les deux tout à l'heure. Et puis le quiz, bien sûr. 32-16 pour vous inscrire pour le quiz de Roten Régal.
La semaine dernière, on n'en parle pas.
Ouais, c'était dur. J'espère que t'as bossé, Captain.
Ah, c'était même honteux.
Rien
à voir.
Ce sera tout à l'heure. 32-7 pour vous inscrire. On y va. C'est le rendez-vous Ligue 1 de la semaine. C'est le multiplex de Roten Régal.
RMC Roten Régal.
Et la casquette qui sonne, elle est pour moi. Elle est pour moi, cette casquette qui sonne.
Le multiplex.
Alors pour ceux qui n'ont pas suivi toute la saison, le multiplex nous a servi à lancer toutes les journées de Ligue 1 avec nos correspondants en région, donner toutes les infos sur chaque journée. Et bien là, en période de mercato, il y a aussi plein d'infos. Donc on va tous les accueillir. On commence par Bordeaux.
Allez, oui.
Nicolas Paul Orsi.
Salut Nico.
Salut les gars, salut à tous. Je comprends pas. Alors les joueurs de Ligue 1 sont en vacances, mais nous on bosse.
Bah bien sûr.
Pas content ou pas?
Non, mais j'ai pas dit que j'ai.
Lui, il est pas content d'être dans Roten Régal.
C'est incroyable, quand même. Non, mais c'est fou, quand même. Alors
lui, il a une confiance.
Tout le monde veut le faire. Ah ouais, t'as raison. Là, on entend une des références.
Mais non, mais je voulais profiter de mes vacances pour m'affûter. Comme ça, en début de saison, Jérôme, tu reverrais ta position par rapport à ma silhouette.
Mais tu vas. Voilà. Mais tu vas aller où en vacances, Nico?
Eh ben, je vais aller en Corse, figure-toi.
Ah,
je vais aller en Corse.
C'est pas là-bas que tu vas t'affûter.
Ouais, c'est pas sûr.
Le saucisson.
Non mais là où t'as raison Jérôme, c'est que tous les correspondants se battent pour faire Roten Régal et lui se plaint.
On a déjà entendu.
On n'a pas pris les 4 qui bossaient aujourd'hui par exemple. On a fait un vrai tri.
Absolument pas.
Alors donc on a entendu Edouard G également.
Ah ouais Edouard. Bah, salut Dudu.
Salut Edouard.
Mais moi mon championnat est pas terminé. J'ai encore un match des filles de l'OL ce soir.
C'est vrai. Dénouement pour la D1 féminine ce soir.
Ça peut être terrible pour Lyon encore là.
Voilà, normalement c'est perdu, a priori.
Si le PSG rate le titre là, ouais. Là,
on en dira un mot tout à l'heure. Pierre-Yves Leroux est également avec nous, notre correspondant dans l'Ouest, pour parler de Nantes et Rennes. Salut Pierre-Yves.
Bonjour, je suis très par les propos de Nicolas.
Merci Pierre-Yves.
Oh les faillots, on n'en peut plus de ces faillots.
T'en fais pas, il n'est pas prêt de revenir.
Et puis alors attention, lui il fait sa première dans un multiplex. Et en même temps, on ne pouvait pas finir une saison de multiplex de Rotten Regal sans la Normandie. Christophe Lécuyer est avec nous, salut Christophe.
Salut les gars, bonjour.
T'as vu le plein d'œil.
Moi c'est un vrai plaisir d'être avec Jérôme, c'est les grandes années cannaises. Donc forcément je suis heureux d'être ici.
Exactement.
Bien sûr. Un nouvel entraîneur pour quand?
C'est autre chose que Paul Le Guen que tu t'es tapé toute l'année.
C'est quoi, on va en parler de Paul Le Guen aussi avec Christophe dans un instant. On va faire quand
l'embrasse, Paul.
Voilà, on l'embrasse bien sûr.
On l'embrasse avec Yves.
Alors, vous savez qu'à 18h, on a réussi à se fâcher avec 3 personnes en 30 secondes. Hein.
Non, mais moi, Yves et Paul, franchement.
Ah oui, il n'y avait pas d'ironie là.
Non.
Pas comme avec.
Non, je pensais qu'il allait signer une Real après le PSG parce qu'on l'avait quand même mis sur un piédestal. Oui, en fait, ça s'est pas fait.
Ça s'est pas joué à grand chose, je crois.
Ça va peut-être se faire, hein, on sait jamais.
Et on y va. On commence par Lyon. Sans moyens, puisqu'il n'y a pas de Ligue des Champions, Lyon va-t-il réussir à se réinventer? Edouard, il faut se préparer à un mercato à la diète.
Ouais, je vais déjà vous donner 2-3 chiffres pour que vous repériez un petit peu tout ça. C'est écrit noir sur blanc dans les comptes arrêtés au 30 mars dernier sur les 9 des 12 mois en cours. 135 millions dus à la pandémie en moins de chiffre d'affaires, plus le manque à gagner de Mediapro. Et l'année dernière, par exemple, l'absence de Coupe d'Europe, c'était 73 millions d'euros. Donc certes, cette année, il y aura l'Europa League, mais c'est un quart de ce qu'aurait pu amener la Ligue des Champions. Et en sachant que même à ce moment-là, au mois de mars, l'OL, on disait, alors que la distribution des prix et des places n'étaient pas encore faites, qu'il fallait serrer la ceinture. Donc vous imaginez avec seulement l'Europa League. Du coup, eh bien, les premiers coups qu'on en a eu à Lyon donnent le tempo de ce qui va se passer. C'est l'arrivée de Damien Da Silva, pas d'indemnité de transfert, juste le salaire. Et ensuite, Enrique Silva, c'est un latéral gauche venant de Vasco de Gama, lui aussi est libre, un latéral tonique comme on dit. Voilà les pistes travaillées et ça donne une idée de ce qui va se passer cet été. Donc il va falloir recruter absolument pas cher et puis recruter malin. Ensuite il va falloir gérer les prêts parce que Joachim Andersen va revenir. Alors cette semaine on dit qu'on a lu la presse danoise qui nous évoque un intérêt de Tottenham à 30 millions d'euros. Il y aura Jean Lucas, il y a Jeffrey Adelaide, il y aura Moussa Dembélé, voilà pour tous les prêts à gérer. Quid de Mattia Deschilio aussi qui était prêté cette année, va-t-il retourner en Italie? Et puis du coup on va faire peut-être comme dans les années 2014, 2015, 2017 même, et bien l'Académie avec Cacré, Cherki, un degré moins, Diomandé, ceux qui ont marqué des points cette année, et puis Melvin Barr qui va peut-être émerger l'année prochaine, et puis Peter Bosz, ce sera à lui de jeter un œil sur les nouveautés du centre de formation. Malo Gusto qui aujourd'hui tient un jeune qui a prolongé jusqu'en 2024. Voilà, ça donne vraiment la feuille de route des Lyonnais. On prolonge des jeunes, on va faire avec l'Académie, et puis éventuellement, s'il y a un petit coup à faire, mais ça sera vraiment pas cher, eh bien on va piocher dans les fonds propres, près de 180 millions d'euros, mais ça va être...
Edouard, il y a quelque chose qui me chagrine, moi. Quand j'entends Jean-Michel Aulas, j'ai l'impression qu'il y a des moyens. Et en fait, tu nous expliques très clairement que Lyon n'a pas les moyens aujourd'hui de recruter des joueurs qui vont lui faire passer un cap ou pour espérer lutter pour le titre et une place en Ligue des Champions. C'est ça qui est fou. Pourquoi Jean-Michel Aulas ne communique pas de la sorte?
En fait, il communique sur, par exemple, quand on lit le dernier compte-rendu économique du mois de mars, sur la future salle qui va être faite pas très loin d'OL Valley, là où mardi d'ailleurs, mercredi va être inauguré tout le complexe avec des restaurants, des paddles, une vague, un hôtel, etc. Beaucoup de commerces aussi, de restaurants. Donc ça, c'est tout l'aspect construction et on va parler encore sûrement des 140 millions à terme mis pour créer la salle. Et faut pas mélanger ces sommes qui sont de l'investissement dans des choses concrètes pour les infrastructures, pour la marque OL, et puis dans le sportif clairement il va falloir recruter malin, et c'est chose faite déjà avec Damien Da Silva, mais sans indemnité de transfert, ou Enrique Silva le Brésilien.
Mais en fait ouais, c'est plus la phrase, alors sans parler de moyens qui mettent l'argent ou pas, et comme tu l'as dit il y a aussi des objectifs ailleurs, la construction de cette salle comme tu le dis, des dépenses, mais quand tu tiens un discours du genre on aura les moyens de nos ambitions.
Il avait parlé de 156 millions, quelque chose comme ça, 156 millions de fonds propres, voilà.
Voilà. Ouais. Donc éventuellement, c'est éventuellement avec ça, c'est comme on a une petite bourse, une petite tirelire. Éventuellement, si on veut se faire une folie, on va piocher là-dedans. D'accord. Mais c'est en ça qu'il faut comprendre un petit peu les chiffres. Mais clairement, non,
parce que t'as besoin de recruter quand même, parce que tu et t'as raison de nous faire un état des lieux du collectif l'année prochaine, du moins des joueurs qui seront là. Mais t'as quand même perdu ton meilleur joueur, Memphis Depay. Donc si oui. si t'es pas capable de recruter un joueur, alors je dis pas qu'il faut prendre le copier-coller que Memphis Depay, mais Lyon aujourd'hui a une place forte dans le championnat de France, et que pour avoir vécu dans ces gros clubs qui ont des ambitions, si à la base ton recrutement il est pas intelligent et il est pas mis avec des joueurs d'expérience et de qualité, mais tu passeras jamais. Tu n'y arriveras jamais à rattraper le retard sur le Monaco, sur Paris, voire sur Lille.
Ouais, mais c'est pour ça que quelque part cette Europa League, alors certes économiquement parlant c'est pas les millions de la Ligue des Champions, hein, un quart de ce, voilà, clairement les droits de l'UEFA c'est un quart de la Ligue des Champions, mais je peux vous dire que certains formateurs à l'OL ou même des joueurs se disent bah c'est peut-être pas plus mal de commencer par une petite carrière en Europa League. Et d'ailleurs souvenez-vous, Rémi Garde avait commencé comme ça avec un certain nombre de joueurs, et en 2017 la demi-finale face à l'Ajax, il y a 7 joueurs du centre de formation dans cette équipe. Mais c'est vrai que ça prend du temps.
Capitaine, il y a besoin d'une star ou de joueurs du calibre de Depay.
Il y a besoin de renforts, et puis avec tous les prêts qui vont revenir à la maison, il va y avoir quand même une augmentation de la masse salariale conséquente, à moins qu'ils puissent s'en débarrasser. Moi, je reste baba quand on m'annonce Andersen à Tottenham pour 30 millions. Je dis,
il a fait une grosse saison à Fulham, ils sont descendus.
Oui, les recruteurs de Tottenham qui se sont plantés cette année continuent sur la même voie. Et bon, donc je veux bien qu'on fasse des annonces de ce type-là, mais entre la réalité et la théorie, enfin la pratique et la théorie, il y a un pas que je n'arrive pas à combler. Il y a du côté de Lyon urgence à dégraisser cet effectif et à le renforcer comme il faut. Quand Jérôme dit Depay s'en va, c'est le meilleur buteur, c'est le meilleur passeur. Il va falloir quand même avoir, comme tu as dit, recruter malin. Quand tu dis recruter malin,
c'est pas bon signe.
Ça veut dire c'est pas bon signe. Ça,
allez, on laisse Lyon de côté et on passe à l'une des infos de la journée. C'est donc la présentation officielle de Stéphane Moulin, qui après 10 ans à Angers est le nouvel entraîneur de Caen. Alors, est-ce que vous comprenez ce choix de Stéphane Moulin de retourner en Ligue 2, lui qui joue en Ligue 1 depuis, qui entraîne en Ligue 1 depuis un moment? Il a tout expliqué très clairement, hein, Christophe. Il a mis en avant l'aventure humaine.
Ouais, complètement. C'est principalement ça qui a guidé son choix, a-t-il dit donc ce midi lors de sa présentation officielle, présentation à laquelle assistaient d'ailleurs beaucoup de journalistes. On n'avait pas vu autant d'Ornano depuis la Ligue 1, hein, c'est dire.
Ouais, depuis mon retour, je pense.
C'est ce que j'avais envie de dire aussi, effectivement, Jérôme. Le projet humain, premier argument qui a guidé donc le choix de Stéphane Moulin, devant le challenge sportif, parce qu'il a évoqué un vrai challenge que de venir ici à Caen pour refaire remonter le club en Ligue 1. Et puis en troisième argument, il a cité sa volonté de faire profiter le club normand de son expérience. Mais vraiment, le facteur humain a joué, c'est clair. L'idée, c'est de retrouver un homme qui a beaucoup compté pour lui. Le président, Olivier Piqueux, celui qui donc occupe aujourd'hui le poste de président du Stade Malherbe de Caen, c'est lui qui avait confié les rênes de l'équipe première du SCO d'Angers à l'époque à Stéphane Moulin.
Jérôme, tu comprends ce choix, toi, de Moulin?
Oui, je comprends. Moi, j'aime bien Olivier Piqueux. Je trouve que, déjà, par rapport à ce qu'il a fait à Angers, parce que c'était remarquable, ça s'est mal fini et c'est tant pis pour Angers, hein, je vais te dire, parce que lui, je le sais de source sûre qu'il en a souffert aussi de cette séparation. Il a su se relancer à Caen, un club qui lui est très cher. Je pense que quand tu mets aussi l'aspect sentimental dans un projet comme ça, bah, tu mets tout ton cœur, toute ton énergie, et c'est ce qu'il a fait. Il est passé pas loin de la catastrophe cette année, hein, il faut reconnaître, hein, et Christophe, il le sait.
Parce pourquoi ça n'a pas marché, Jérôme?
Pourquoi? Parce que... On en a parlé tout à l'heure. Je pense qu'il y avait un problème d'entraîneur déjà dans la façon de manager ce groupe-là et surtout de les entraîner, parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs. Se couper du centre de formation à Caen, qui a toujours été un centre de formation de qualité, et je dis pas ça parce que je suis sorti de là-bas, mais c'est le cas, qui est un très beau centre de formation. Je pense que tout ça, il y a eu plein d'erreurs. Ils sont passés vraiment tout près de la catastrophe.
À quelques minutes près.
Et ouais, sur un pénalty à la dernière minute. Et là, bah là, il va avoir le temps de reconstruire quelque chose. Et c'est pour ça que c'est le challenge. Il est intéressant pour Stéphane Moulin, parce que bien sûr qu'il aurait pu rester en Ligue 1. Mais est-ce que c'est plus intéressant pour lui d'être à la base d'un projet comme Caen, qui est quand même un club bien structuré, avec des vrais des infrastructures dignes d'un club de Ligue 1, et puis une ville qui est aussi très foot, que d'aller dans un club pour jouer les derniers rôles en Ligue 1, qui est certainement moins structuré que Caen? Bah moi je pense que c'est un bon choix, et puis en plus on va lui laisser le temps, parce que Olivier Piqueux va pas lui mettre l'année là coup près, si tu montes pas tu dégages. Je pense qu'il est sur plusieurs années, Caen doit se réinstaller une place assez forte du championnat de France.
Dans une seconde, le multiplex spécial Mercato se poursuit. Alors les Mercato à Nantes et Bordeaux sont un peu bloqués à cause notamment de certaines incertitudes sur les reprises.
Il y a pas de chocha, il y a pas de sous.
Ben non, et puis alors il y a des gens qui veulent reprendre et qu'on n'a pas envie à Bordeaux.
Exactement, on en parle dans un instant. Le multiplex de Roten Régal se poursuit, à tout de suite.
RMC 18h-20h Roten Régal. Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h16 sur RMC, toujours dans Roten Régal. Allez Jean-Louis, avec Jean-Louis Tour, Jean-Michel Larquet. On a eu une petite courte page de pub pour payer le salaire de Jean-Michel.
Bien sûr.
Donc là, on est reparti pour le multiplex.
Il y aura le multiplex européen à 19h30, avec notamment en direct Espagne-Portugal, que l'on suivra, match de préparation à une semaine du début de l'Euro. On est dans le multiplex Ligue 1 avec nos correspondants Pierre-Yves Leroux, Édouard G, Christophe Lécuyer et Nicolas Paolorsi. D'ailleurs, dans le tour des stades, dans un instant, il sera question de Saint-Étienne, de la reprise à Bordeaux, d'Enzonzi et du Havre. Donc restez bien à l'écoute. Mais on va donc parler de Bordeaux.
Qu'est-ce qu'il fout là, Enzonzi?
Tu verras. Bordeaux, donc, Nicolas. Oui. Donc, on laisse de côté l'avenir du club, le rachat. Il y a quelques projets qui ont été retenus. On attend le dénouement d'ici une semaine. Mais en attendant, Nico, ça bosse donc sur l'effectif.
Ben oui, enfin, du moins, on ne sait pas quels seront les moyens des dirigeants bordelais l'année prochaine et de ce que voudra faire le repreneur. Mais par contre, on bosse sur l'effectif actuel. C'est-à-dire qu'Alain Roche est encore aux manettes avec King Street. Et du coup, on s'est séparé de plusieurs joueurs. Alors, je vous ai un peu caché cette information, je l'avoue, parce que j'avais peur que vous. J'avais peur que vous.
Ben Arfa ne va pas continuer. Non.
Exactement, Captain. Ben Arfa ne va pas continuer avec les Girondins.
Les mauvaises nouvelles s'accumulent.
C'est surprenant. Hein.
Mais pourquoi?
Ouais, c'est surprenant. Alors, Alain Roche a fait une interview chez nos confrères de Sud-Ouest et il a dit qu'il n'avait pas répondu à certains critères sportifs. Ouais. Donc voilà, non, mais je vous rappelle. Alors déjà, Ben Arfa avait un contrat 1 plus 1 avec une option à activer qui engendrait une augmentation de salaire assez conséquente. Donc bien évidemment, vu la situation économique des Girondins, c'était compliqué de le faire.
Ça, c'est un choix fort d'Alain quand même, de ne pas le prolonger.
C'est un choix à faire. Et puis je vous rappelle les stats de Ben Arfa.
Non, on ne nous rappelle pas les stats, passe à autre chose. Parce qu'on ne va pas faire une heure sur Ben Arfa. Bon. Tu nous as fait une saison déjà sur lui.
On peut dire, Jean-Louis et Jean-Michel, que c'est un gros choix d'Alain Roche. Là, il s'est engagé. Il y en a d'autres quand même. Il y a quoi alors?
Comme disait
départ.
L'autre, il a vraiment tranché dans le vif.
Ah oui.
Non, mais c'est un véritable échec, Ben Arfa à Bordeaux. En tout cas, c'est un véritable échec.
Oui, merci.
Et dans le vestiaire, ça aurait été
une des causes. Nous, on te le dit depuis une saison.
Ce serait plus rapide que tu nous évoques les succès plutôt que les échecs.
Là, ça va aller très vite.
Le succès, c'est la première demi-heure à Bordeaux. Voilà, qu'il a fait sur le match au mois d'octobre.
C'est vrai, contre Brest, il doit mettre un but aussi.
Ouais,
Non, mais sur ses 11 premiers matchs, il met 2 buts et il fait 5 passes décisives.
Bon, allez, arrête, tu m'énerves avec Ben Arfa, passe à autre chose. Allez.
Bon, alors, Youssouf Sabali, le latéral droit sénégalais, qui est probablement un des meilleurs joueurs des Girondins cette saison, si ce n'est le meilleur joueur des Girondins cette saison, n'a pas été prolongé.
Sabali.
Pourtant, le club lui a fait une offre, lui, il a fait le choix de ne pas continuer.
Non, je plaisante pas, c'est vrai.
Non, mais sérieusement, Youssouf Sabali, pour le coup, ça a été un joueur régulier qui a été à son niveau. Alors il a eu des petits pépins physiques en début de saison, mais pour le coup le club lui a proposé une prolongation, lui a refusé. Il a envie de se relancer avec un autre projet sportif. Nicolas Depréville également, lui c'est un gros échec, hein. Nicolas Depréville qui fait partie des plus grosses recrues de l'histoire du club.
Il a l'air pas tranché.
Mais en revanche, si chaque nom vous bloquez, on va jamais s'en sortir.
Non, je crois qu'il est sur les tablettes. Il va peut-être retourner à Istres apparemment.
Écoute, je sais pas. Il a pas de. Alors, on parlait beaucoup de lui à Nantes, notamment au mois de janvier. Il a pas trop de pistes. Il se laisse le temps, Nicolas Deprivé. En tout cas, cette saison,
tu
c'est un seul petit but contre Dijon. Et c'est un joueur c'est qui a joué. Piste, hein. Il a pas été cantonné au banc de touche.
Bon courage, Nico.
Par contre, j'ai une info mercato. Tu l'as pas celle-là?
Vas-y.
Laurent Koscielny au musée.
Alors Laurent Koscielny a envie de jouer.
Bah,
Laurent
Koscielny a envie de jouer.
Ben oui.
Ah
ouais. Il se voit encore joueur l'année prochaine. Tu fais bien d'en parler, Jérôme, parce qu'il se voit encore joueur. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, parce que vous me coupez tout le temps là, je suis perdu. Il y a potentiellement un nom qui était suivi par King Street, mais voilà. Avant l'annonce du retrait de King Street pour remplacer Sabali, c'est le latéral droit que Edouard connaît bien de Grenoble, Jordi Gaspar, qui a 24 ans, qui est pisté par pas mal de clubs hein, de Ligue 1. Donc voilà, ça faisait partie des pistes évoquées. Sinon, quelques joueurs qui n'ont pas été prolongés non plus, Jovanovic. Bon, je sais même pas si vous saviez que Jovanovic jouait à Bordeaux.
Si, quand même, je crois pour qui.
Il était dans la Réunion.
C'est vrai qu'il était vraiment. Il a absolument pas joué cette saison, à part en Coupe de France. Et Maxime Pounjé également, qui est un enfant du club, qui a joué les derniers matchs et qui a été important sur les derniers matchs au moment où Bordeaux a dû se sauver.
Ouais,
Pounjé n'est pas prolongé, donc voilà un petit peu.
Merci Nico pour son d'horizon.
Ça vous a passionné. Je sens que ça vous a passionné.
Non, c'était bien. Merci beaucoup Nico.
King City est toujours là. Ils ont prolongé King City.
Ils ont obtenu les deux meilleurs joueurs donc, de l'année, c'est Sabali et Pounjé sur les derniers matchs. Voilà.
C'est pas faux. Sur les derniers matchs, c'est pas faux.
On va basculer sur Nantes. Donc, Pierre-Yves, aujourd'hui, il y avait présentation.
Non, on ne veut pas des joueurs de Bordeaux.
De Préville, oui, il essaie de te le refourguer.
Non, ben merci. Il y a un directeur sportif, Moji Bayat, qui gère tout. Il n'y a pas de souci.
Ah, ça, pour tout gérer, il gère tout.
Bon, ça,
alors, on lui fait confiance.
Présentation aujourd'hui du collectif nantais, Pierre-Yves. Raconte-nous. Ouais,
exactement. Ça sera donc le
collectif mené par Mickaël Landreau.
Bon. Alors, pas mené par Mickaël Landreau.
Ah, pardon.
Je vous résume un petit peu.
Oui, laissez-le expliquer clairement.
Ouais, parce que là, c'est la révolution avec Mickaël Landreau.
On
ne
peut pas en placer une. Alors, c'est une société dont le billet d'entrée est fixé à 100 000 euros. C'est une initiative qui est lancée par Philippe Plantif. Pas par Mickaël Landreau, par Philippe Plantif, qui est PDG d'une société qui s'appelle Proginov, qui est un sponsor actuel du FC Nantes et qui a envie de réunir un maximum de partenaires locaux. C'est une initiative sur le territoire et puis des fonds. Donc, il y a déjà un peu plus de 2,5 millions qui ont été déjà réunis afin de se poser, alors non pas en repreneur du club, mais en acteur potentiel. Vous n'allez pas racheter le club avec 3 millions d'euros. Hein. En revanche, avec 20, vous pouvez entrer au capital s'il y a un gros investisseur qui arrive aux côtés de ce collectif, par exemple. Et puis la caution sportive, effectivement, elle est apportée par l'ancien capitaine des Canaries, Mickaël Landreau, qui est très attaché à ce qu'il a...
Mickaël peut les mettre, les 20, hein, parce qu'il ne dépassait pas un centime avec nous.
Il a pas mis les 20, pas un café, mais en tout cas... Écoute, il a mis en tout cas déjà avec les anciens comme Nicolas Gillet, comme Frédéric Darrocha, Nicolas Savino, et ils sont en
Patrice
tout cas
Sérieux,
dans ce projet. Non, pas Patricio. Christophe Pignol, par exemple, aussi.
Excusez-moi, pardon de t'interrompre, Pierre-Yves, mais vous vous êtes fixé un chiffre avec Jean-Michel, nombre de personnes avec qui vous fâchez dans l'émission depuis 18h.
Pourquoi ?
Mais là, vous êtes inferno tous les deux.
Mais moi, sur Bordeaux, je suis wanted. Hein. Ça fait un an que plus personne ne me parlait à cause de vous.
Non, arrête, toi, c'est pas vrai.
Je pense que Mickaël, il sait que Jérôme l'aime bien de tout. Mais
oui, non, mais moi je le chambre.
Bien sûr. Bah, tout ça n'est que du chambrage.
Mais attends, j'ai perdu mon permis, il m'a emmené à l'entraînement, Mika, bien sûr.
Bah oui, merci.
Ah, y a tu du vois, chambrage.
Il paye l'essence déjà.
C'est ce que j'allais dire, il paye l'essence.
Eh ben, détrompe-toi, j'étais obligé de lui faire un chèque. Je faisais 50-50. Et le péage, 2 euros pour y aller, à chaque fois je devais donner 1 euro.
Sachez en tout cas, messieurs, que les moteurs donc, de ce collectif ont été très attentifs aussi à ce qui s'est passé à Bordeaux avec un fonds d'investissement, on l'a vu, totalement hors sol qui échoue.
Mais arrêtez.
Non mais c'est vrai, le nom de Bordeaux a été souvent donné en exemple aujourd'hui pour essayer d'être avec des choses plus ancrées dans le territoire. Et le discours de Mickaël Landreau, c'est notre responsabilité, c'est de faire un projet cohérent. En tout cas, c'est une initiative qui est assez originale.
Alors, quelle est la finalité de ce projet alors? Donc,
justement,
on essaie de monter les 20 millions et après, qu'est-ce qu'on fait?
Un vrai pouvoir d'entrer au capital de ce club s'il y a un gros investisseur qui veut bien être là à côté, ou éventuellement s'il y a un investisseur qui vient amené par Valdemar Quitta, qu'il sache qu'il y a une force
territoriale
ici. Voilà, ouais. Exactement. Donc, c'est une initiative originale et je trouve qu'elle a été présentée aussi de façon
magnifique. Et Quitta, il a répondu ça.
Valdemar Quitta.
Et il dit quoi à tout ça, Quitta?
pour l'instant, il est un petit peu en opposition. Il dit, en gros, il y a pas d'argent, donc c'est bien gentil. Mais aujourd'hui, ce qui a été dit, c'est aussi Valdemar, il est intelligent, il est capable de sortir de sa posture et peut-être qu'il va voir qu'il y a quelque chose de concret, de respectueux là-dedans. Aussi vis-à-vis de lui et pourquoi pas de réussir à le séduire.
Ok.
C'est vrai qu'on rigole, mais c'est une bonne initiative. Je pense que c'est une bonne initiative. En plus, des anciens comme ça qui se sentent concernés, qui aiment ce club, c'est pas
attention.
Plus mal.
Tour des stades. Il n'y en a plus beaucoup des tours des stades dans Rotten Régal. Donc on y va. Quatre infos. Et à la fin, Jérôme, tu me dis celle que tu retiens.
Mais Edouard, il le fait quand même ?
Oui, il le fait, bien sûr. Ah. Il le fait sur Saint-Etienne. La vente de la SSE. Alors on en est où, Edouard ?
Bah, on reste dans la lente partie d'échec, en fait, d'échange où chacun avance ses pièces. On se juge, on se sonde, document administratif après document administratif. Alors, ça va pas assez vite aux yeux des investisseurs d'Asie du Sud-Est dont je vous parle depuis une quinzaine de jours. Les esprits sont un petit peu échauffés. Les téléphones se sont raccrochés au nez et puis on s'est reparlé. Et même les élus locaux qui ont commencé à prendre langue un petit peu avec ces investisseurs parce qu'ils voudraient que ça aille un petit peu plus vite. Et les élus locaux, ils voient l'attractivité du territoire à travers une bonne ASSE. Donc voilà, on en est un petit peu là, ça avance doucement en sachant qu'il y a un autre nom qui m'est arrivé cet après-midi. Je n'ai pas le nom du repreneur, mais le potentiel nouvel entraîneur qui serait Thiago Motta, qui ne serait pas sur ce dossier dont je vous parle depuis une quinzaine de jours. Je n'ai pas encore eu le temps de vraiment gratter, mais c'est un autre dossier.
Avec un des investisseurs,
aussi,
d'accord.
Avec un autre investisseur.
Pour l'instant, Thiago c'est Motta, toujours ponctuel quand même. Voilà, très bien.
Exactement.
En parlant de vente, Bordeaux, pour les ultramarines, c'est tout sauf Kyo, Nico.
Ouais, c'est compliqué, hein. Alors on connaît des dossiers pour la reprise du club, le projet Rigaud et Williams et le projet Didier Kyo. Le problème c'est que les ultras ne veulent absolument pas de Didier Kyo, qu'ils ont associé à Frédéric Longuepé, très proche de la banque Rothschild. Ils estiment que il y a des connivences entre Longuepé et Kyo et la banque Rothschild pour que ce soit lui qui soit favorisé et reprenne le club.
Bon, c'est
et
dommage, du coup, c'est très compliqué. Des bonnes choses dans le football français.
Et quand on voit en tout cas.
Didier Kyo à la liste, très bien.
Non, mais quand on. Oui, arrêtez. Parce que Didier Kyo, il faut que je lui parle quand même un peu là.
C'est vrai.
Dans les jours à venir. Je les ai vu parler, donc arrêtez.
Il n'est pas responsable de l'arrivée des Américains en France.
Bon, allez, vas-y, Nico.
Et en tout cas, non, qu'est-ce que je voulais vous dire en terminant ? Oui, bah quand on voit ce que ça a donné le conflit ouvert entre Longuepé et les ultras, on se dit que pour le futur repreneur du club, il faudrait quand même essayer d'avoir les ultras dans la poche parce que c'est très très compliqué sinon de cohabiter.
Une info Mercato à Rennes sur l'avenir d'Enzonzi, Pierre-Yves.
Ah. Ben oui, ça discute toujours au sujet de son avenir puisque le club est toujours en discussion avec l'AS Roma qui a prêté, vous le savez, l'international français afin de le conserver dans l'effectif. Il y a deux scénarios qui sont possibles. Soit un transfert immédiat qui est évalué à 7 millions d'euros ou la prolongation d'une saison du prêt avec une obligation de rachat qui serait fixée à 3,5 millions d'euros. Et nos confrères de West France nous apprennent que Florian Maurice devrait rencontrer le joueur la semaine prochaine à ce sujet-là. Donc on en saura plus assez rapidement.
Très bien. Et dernière info. Et Florian Maurice,
Ils ont dit qu'ils parlent avec Florian Maurice, t'imagines.
Et vous arrivez à avoir des invités dans cette émission.
C'est incroyable.
Ah non, Ils ont dit non.
Enzonzi, c'est pour Jean-Michel.
Ah oui, c'est pas moi. Moi, j'aime bien.
Et dernière info, on profite de la présence de Christophe Métivier.
Il y a statistiques sur les passants.
Au Havre, il ne se passe rien. Et ça t'inquiète, Christophe.
Franchement, pas l'ombre d'une recrue. Juste une prolongation cette semaine qu'on a eu à se mettre sous la dent. C'est la prolongation du vétéran, du capitaine Alex Bonnet. 34 ans, qui va effectuer sa 13e saison sous le maillot du club de Rennes. Non mais blague à part, on a vraiment du mal à comprendre où veut aller le Havre. Il y a 6 ans, au moment de sa prise de fonction, le président américain Vincent Volpe avait pourtant fixé le retour en Ligue 1 comme objectif, mais seulement voilà, depuis les saisons se suivent et se ressemblent. Et franchement messieurs, au Havre, beaucoup de supporters se demandent encore où sont passés les 12 millions d'euros du transfert de Kadewere à Lyon en janvier 2020.
Ah oui, c'est une vraie question.
Bah nous, on se demande où sont passés les supporters aussi quand le stade va rouvrir ses portes aux supporters. C'est vrai que le stade, malheureusement, au Havre, est loin d'être rempli à chaque fois.
Ah bah non, oui, ça c'est sûr. Surtout depuis un an et demi.
Jean-Louis, on a donc une semaine là pour se réconcilier avec tout le monde, nous, de notre côté.
Moi, j'ai noté. Il y a 4 mois. Parce que... Didier Kyo, Florian Maurice, non, mais... Steven Zonzi, Comoli, Dupras, Santini,
Merci
Le
Jérôme. Hein.
Pierre-Yves.
C'est sympa.
Ça va nous prendre la
Quand tu nous as cité Nico Gillet, c'était une blague quand même.
Nicolas Gillet. Allez, merci messieurs. Nico Pollard, c'est Pierre-Yves Leroux, Edouard, c'est Christophe
Bravo les gars.
Dans un instant, le multiplex européen. Et merci pour votre patience. À tous. À tout de suite.
RMC, 18h-20h, Roten Régal. Jean-Louis Tour,
Jérôme Roten.
19h33, allez, la dernière ligne droite, Jean-Louis Tour, Jean-Michel Larquet, toujours là, bien sûr, dans Roten Régal sur RMC. Allez, Jean-Louis, on fait multiplex européen,
et
bien sûr.
Et on va jouer à 19h45, donc le quiz sera là, 32-16 pour vous inscrire. Dans le multiplex européen, on va suivre avec attention Espagne-Portugal. C'est parti depuis quelques minutes, on suit le match avec Nicolas Comelli. Salut Nicolas.
Salut Jean-Louis, salut à tous, c'est parti effectivement depuis un peu moins de 3 minutes, toujours 0-0 au Wanda Metropolitano à Madrid, et je peux vous dire qu'il fait plaisir à voir ce stade avec 15 000 supporters présents dans les tribunes. Ouais, on retrouve peu à peu, Jérôme, le foot qu'on aime, et ça fait du coup une très jolie première pour Emeric Laporte, naturalisé espagnol il y a 3 semaines. Il est déjà titulaire ce soir dans la charnière centrale de la Roja. De l'autre côté, le Portugal évolue avec deux champions de France, José Font et Renato Sanchez. On surveillera aussi un minot devant qui s'appelle Cristiano Ronaldo. Voilà, un peu plus de 3 minutes de jeu, 0-0 entre l'Espagne et le Portugal.
Merci Nicolas. L'Espagne, on en parle tout de suite dans le multiplex européen.
RMC, Roten Régal.
Multiplex européen.
Espagne et Italie, puisqu'il y a également Italie-République Tchèque ce soir. L'Italie, on va en parler avec Johan Crochet qui est avec nous, notre spécialiste du foot italien. Salut Johan.
Salut Johan.
Bonsoir messieurs.
Et on va commencer par l'Espagne avec Fred Hermel. Salut Fred.
Salut Fred. Hola chicos.
L'attraction, c'est la première de Laporte sur ce match.
La Puerta.
Ah oui, là, oui, il faut dire.
Ah oui, en espagnol, c'est la Puerta. Mais de toute façon, rappelez-vous, il y a quand même beaucoup de questionnements en France, notamment dans les médias. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas, etc. Bah, il vient pour être titulaire. C'est évident que si Luis Enrique avait demandé.
Il n'est pas en club, comment il serait en sélection?
Pardon?
Il n'est pas en club, il est en sélection?
Ah, mais il va l'être. Il va l'être.
C'est dingue.
Il l'a naturalisé pour ça. Il n'y a pas vraiment de. On a vraiment l'impression que ce soir, Pao Torres et Emeric Laporte, ce sera la charnière centrale de l'Euro pour l'Espagne.
Ah ouais.
C'est
ça fait pas rêver quand même.
Ça fait pas rêver, mais c'est une jeune équipe d'Espagne. C'est une équipe. Moi, je suis persuadé que l'Espagne va pas faire grand chose. De toute façon, c'est pas le but de l'Espagne de gagner quoi que ce soit cette année. L'Espagne se prépare une nouvelle génération pour où on va pouvoir voir. Comment savoir quelque chose d'intéressant au mondial? Parce que si tu regardes l'équipe de ce soir, quand tu vois les Ferran Torres, les Fabian Ruiz, les Gaia, les Pao Torres, les Marcos Llorente, Unai Simón, on est quand même dans une nouvelle génération de footballeurs. Donc, Luis Enrique a reçu un appui total du président de la fédération. Il a le temps de construire un groupe, de construire une nouvelle génération, parce que l'Espagne a eu du mal à couper le cordon avec l'équipe qui avait gagné 2 euros.
Quand t'as dominé autant d'années, c'est normal. Hein.
Bien sûr.
J'ai une équipe qui gagne, personne ne le fait, et pas plus en Espagne qu'en France.
Ouais. Il n'y a plus qu'un seul joueur de cette époque, c'est Busquets qui est titulaire ce soir, mais bon, ça sera sûrement sa dernière compétition.
Ouais. Puisque il aurait pu avoir Ramos aussi.
Bah ouais, mais sauf que Ramos, il a pas été sélectionné, quoi. C'est ça qui est,
ça, pas, c'est pas incroyable, ça. C'est incroyable.
Ouais. Ça fait beaucoup de problèmes ici, beaucoup de buzz.
Mais il est blessé au point de pas.
Non, il a repris.
Non, mais justement, il a quelque chose pour ne pas être sélectionné. En tout cas,
le médecin de la fédération a appelé le médecin du Real Madrid qui lui a dit qu'il était disponible. Sauf que Luis Enrique a des doutes sur le niveau de Ramos. C'est vrai que Ramos n'a joué que 4 matchs en 2021. Donc.
Non, mais il préfère un mec qui est remplaçant, du remplaçant à Manchester City. C'est ça qui est incroyable.
Mais Luis Enrique a tous les pouvoirs dans cette équipe.
Et qui était français il y a quelques semaines.
Il y a 3 semaines. donc, Emeric Laporte, je suis persuadé, je le disais depuis le début, qu'il est venu pour avoir un rôle important et sûrement titulaire. Ce match contre le Portugal, c'est le premier match de préparation, mais c'est aussi un match de gala. Ah oui. Donc, on fait pas n'importe quoi devant les 15 000 spectateurs
du
Metropolitano et devant une grosse équipe avec João Félix qui est dans son jardin et Cristiano Ronaldo. Et
d'ailleurs, Jérôme, tu préfères quoi? Jouer le Portugal, faire un vrai gros match de préparation, ou faire comme nous, jouer le Pays de Galles, la Bulgarie, des matchs plus d'entraînement?
Ça, c'est la bonne question. Moi, je pense que ces matchs-là, dans toute façon, l'adversaire, tu t'en fous un peu.
Mais
c'est...
Roland, par exemple, hier, il disait, moi, je veux pas un gros match pour les matchs de préparation. Risque de blessure, etc. Ouais, c'est un match d'entraînement amélioré.
Je veux pas aller contre ce que dit Roland, mais je trouve que là, c'est n'importe quoi. Parce que quand t'es en sélection, je suis désolé, que ça soit Pays de Galles ou le Portugal, dire t'as envie de briller, t'as envie d'être bon parce que tout est épié, tout est regardé, et à partir de là, si t'es pas bon, ça va faire parler, ça va faire jacter. Donc vaut mieux arriver avec le plein de confiance et faire des bons matchs et tout. Oui, et donc, c'est pour ça, avant de donner la parole à Jean-Michel, c'est pour ça que moi, je pars du principe que les matchs test, que ça soit Pays de Galles ou Portugal, peu importe, l'essentiel, c'est que toi, tu arrives à répéter le football que tu veux mettre en place et redonner confiance à un groupe s'il en manque un peu. L'équipe de France, elle est en pleine confiance, elle gagne ses matchs, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là.
Je vais vous raconter une petite anecdote
qui date d'hier,
ni d'avant-hier. En 1958, lorsque l'équipe de France est partie en Suède pour jouer le mondial, eh bien, elle n'avait pas de match de préparation. Et on s'étonnait en France qu'elle ne puisse pas jouer contre des équipes nationales ou même contre des équipes de haut niveau en Suède. Donc, ils avaient joué contre des équipes de village. Ils avaient gagné 12-0, 14-0. Et à la sortie, ils sont finis troisième de ce mondial. Donc, attention avec les matchs de préparation, match difficile ou match pas difficile. L'importance quand même, c'est dès la première rencontre pour le tournoi final, d'être au point. Et l'équipe de France allait montrer qu'avec des matchs bidons, elle était arrivée en troisième sur la troisième
marche du podium,
comme dirait Luis Fernandez.
Très bien. Voilà. L'Italie face à la Belgique.
Allez, encore un.
Ah oui, Louis,
c'est bon.
Louis,
c'est bon, Antoine a déjà le texto là, c'est bon, ça y est.
Alors l'Italie, qu'est-ce qu'on attend de ce match ce soir face à la République tchèque, Johan?
Bah, ça va être c'est le deuxième test après le petit match d'entraînement face à Saint-Marin. Ce qu'on va attendre, c'est que Roberto Mancini a mis son équipe type ce soir. Alors, à peut-être un joueur près, parce que Berardi est aligné sur l'aile droite ce soir.
Et que
on verra
Verratti
si c'est Berardi, Bernardeschi, on verra si c'est Chiesa. Ouais, mais en fait, le problème de Verratti, c'est qu'il est out déjà pour le premier match de l'Euro contre la Turquie. Sans doute
Jérôme,
aussi pour le deuxième.
Chiesa, Jérôme, il aime pas Chiesa.
Ah si, non, pourquoi tu dis ça?
Ah bon, d'accord.
Sans doute pour le deuxième aussi, donc on risque de ne le voir que pour le troisième match. Donc après, le fait d'être 26 permet aussi ce genre de fantaisie entre guillemets où tu te dis il est tellement important que au pire on verra comment ça va se passer. On a des joueurs pour combler en attendant son absence. Donc c'est la dernière répétition avant le match d'ouverture contre la Turquie vendredi prochain. C'est un niveau bien supérieur évidemment à Saint-Marin de la semaine passée. Donc on va s'attendre à ce que l'Italie continue sa bonne série, parce que je le rappelle, on est à 26 matchs consécutifs sans défaite à l'heure actuelle. Elle est vraiment en pleine confiance, cette équipe. On sent des joueurs qui jouent libérés avec beaucoup d'enthousiasme. C'est ce qu'a ramené Roberto Mancini. Son style de jeu ne bouge pas. C'est un style assez ambitieux qui demande beaucoup de courage aux joueurs. Les joueurs peuvent rater des choses, il n'y a pas de problème. Mancini va continuer à aller dans cette direction-là. Si l'Euro se passe mal, il n'y a pas de problème. Mancini, il a été prolongé jusqu'en 2026. Le projet va bien au-delà de cet Euro-là. Donc, on s'attend tout simplement à ce que l'Italie rentre tout doucement dans son Euro dès ce soir.
Et toi, tu dis le point fort, ce qu'il faut vraiment surveiller, c'est le milieu de terrain.
Ah ouais, mais il y a pas photo, honnêtement. L'Italie n'a plus trop les défenseurs d'autrefois, on va dire ça comme ça. Il y a un problème au poste de numéro 9, parce que entre Immobilier
et Belotti... Ils ont toujours les défenseurs d'autrefois, c'est peut-être ça le souci d'ailleurs.
Belotti n'arrive pas à confirmer quand même. Belotti, c'est...
Exactement, Jean-Michel, et Immobilier même...
Il avait 21 ans, avec le Taureau, il promettait énormément, il marquait beaucoup de buts, et puis ça s'est un peu étiolé là, hein.
Ouais, mais en fait, faut aussi regarder la situation du Torino, qui est une équipe en grande difficulté ces dernières saisons. Et malgré ça, pour voir beaucoup de matchs du Torino, c'est encore le seul joueur qui est capable de faire la différence, qui donne tout sur le terrain, qui lâche jamais rien. Donc, évidemment qu'on pouvait s'attendre à mieux. Il a été aussi bloqué parce que son président lui demandait des 60 millions d'euros, 80 millions d'euros, 100 millions d'euros, et que c'est très cher. Là, on verra, il lui reste un an de contrat, donc il va peut-être bouger cet été. Mais ça sera Immobilier, plutôt titulaire, sans doute à l'Euro. Et je disais, c'est le milieu de terrain, parce que Immobilier ou Belotti devant, c'est toujours un peu compliqué avec la nationale. Ils font pas les mêmes prestations qu'en club. Derrière, les latéraux donnent pas des grosses garanties défensives. Bonucci, Chiellini, ils sont âgés et Bonucci fait vraiment pas une bonne saison. Chiellini a été longtemps blessé aussi.
Il est fatigué, oui.
Voilà, donc la vraie force, c'est le milieu de terrain. Barella, Jorginho, Locatelli.
Ouais, c'est vrai qu'il y a Sensi aussi. Sensi s'est blessé.
Et oui, il va sans doute être remplacé, alors c'est pas encore officiel, par Pessina, le milieu terrain de l'Atalanta. D'accord. Mais Pessina, c'est pas mal non plus. Il y a aussi Lorenzo Pellegrini de la Roma. Il y a encore Marco Verratti derrière qui va.
Et l'attaquant là, qui est convoité par Marseille, c'est Raspadori, c'est ça?
Raspadori, oui. Alors, convoité par Marseille, ils peuvent le convoiter. Moi, j'ai entendu hier l'administrateur.
Non, mais c'est ce qu'il disait. Hein.
Ouais, oui, bien sûr, l'administrateur délégué de Sassuolo a dit c'est niet, ouais. il reste avec nous. C'est un joueur qui va prendre encore plus de temps de jeu la saison prochaine. Alors, sauf s'il y a une offre de 30, 40, 50 millions d'euros, je sais pas. Hein. Mais a priori, Sassuolo veut le garder pour la saison prochaine.
Et lui, c'est tu penses qu'il peut pas, il peut pas incorporer la ligne d'attaque.
Ah, ça va être compliqué.
C'est trop juste encore.
C'est encore un peu juste, mais en même temps, c'est un profil qui peut amener de la vitesse, tu sais, en fin de match. C'est un joueur qui se déplace très très bien, qui peut amener un peu de vitesse. En plus, il est assez agile, pied droit, pied gauche. Donc, il peut aussi jouer sur un côté.
Je l'ai pas vu jouer comme toi, certainement, beaucoup de fois. Je l'ai vu jouer quelques fois avec Sassuolo. Et c'est vrai que je trouve qu'il est, il est intéressant dans ses enchaînements, dans ses déplacements.
Exactement. Et en plus, il peut jouer 9,5. Il peut jouer 9. Ouais. Une sorte de faux 9, parce que c'est pas vraiment un vrai 9 non plus, hein. Et il peut jouer même sur les côtés. Il a déjà joué sur les côtés avec Sassuolo. Donc, c'est un joueur extrêmement polyvalent qui peut amener beaucoup de fraîcheur, de vitesse, etc. en cours de match.
Et même en cas d'offre un peu plus conséquente de l'OM, il n'y a aucun moyen de le récupérer. Parce que pour Marseille, en fait, franchement, je pense que c'est un bon profil. Hein.
Mais en fait, Sassuolo. 50 ou 60, comment veux-tu qu'il.
Ah bon?
Mais Sassuolo, en fait, ils n'ont pas besoin de vendre parce qu'ils vont déjà sans doute perdre Locatelli qui va ramener beaucoup d'argent. Ils vont sans doute perdre Jérémy Boga qui va ramener aussi beaucoup d'argent. Donc en fait, ils n'ont pas besoin de vendre.
D'accord.
Donc ils n'ont pas le couteau sous la gorge. C'est une fois qu'ils auront vendu ces deux joueurs-là, ils peuvent dire c'est 50 millions d'euros. Et en plus, vu que Boga va partir, qu'il y aura des places devant avec Caputo qui a eu une saison compliquée, il aura du temps de jeu à Spadoni. Donc même lui, je rappelle, il vient seulement de débarquer vraiment et d'exploser entre guillemets en Serie A. Donc il a besoin de temps de jeu.
Puisqu'on a cité le mercato de l'OM, je vous rajoute une info à RMC Sport aujourd'hui. Ça s'est accéléré pour Gerson. C'est quasiment ficelé. Ça devrait être annoncé très bientôt. Donc 24 ans, le milieu de terrain. L'OM le signerait pour 5 saisons jusqu'en 2026. Il y a juste un doute sur sa date d'arrivée, puisque Flamengo voudrait le garder pour faire le 8e de finale de Libertadores du mois de juillet. Donc à voir quand est-ce qu'il rejoindrait Marseille.
Oui. S'il est aussi fort que le Gerson de 70, qu'ils le prennent tout de suite.
Ah, est-ce que vous voulez un mot sur Gerson? Parce que
tu l'as
beaucoup
vu
jouer en Italie.
Alors je vous dis, il faudrait que ce soit court.
Allez, vas-y.
Très court. En fait, en Italie, on considère que c'est une météorite, c'est-à-dire qu'on n'a pas compris son arrivée, qu'il a eu beaucoup de mal, mais lui-même l'a reconnu, il était trop jeune pour arriver, donc il ne faudra pas juger sur ses performances à la Roma ou à la Fiorentina où c'était vraiment très, très, très compliqué. En plus, il a été baladé de poste en poste, numéro 10, milieu de terrain, relayeur gauche, milieu devant la défense. Ouais. Bref, il n'y a pas beaucoup de références en Italie, donc non, il a rien montré. Néanmoins, il l'a avoué lui-même, c'était trop tôt pour venir en Italie à ce moment-là.
Merci messieurs, merci pour les infos, Johan. Prochain en Italie, Fred Hermel. On fait un point rapide sur Espagne-Portugal en ce moment, Nicolas Comelli.
Ouais, et toujours 0-0 après 15 minutes de jeu. Un match assez haché, je peux pas m'empêcher de penser à coach Courbis qui détesterait ce genre de rencontre amicale parce qu'il y a beaucoup de fautes et beaucoup plus que de situations pour l'instant.
Très bien, merci Nicolas. Dans une seconde, le quiz de Roten Régal. A tout de suite.
RMC Roten Régal. Jean-Louis Tour,
Jérôme
Roten. 19h50, toujours dans Roten Régal, bien sûr. Allez, 10 dernières minutes. Et 10 dernières minutes, Jean-Louis, c'est le quiz.
C'est parti.
RMC, Roten
Régal. Coman. Ah oui, Coman, bien joué Jean-Michel. Ouais, ça a mis du temps, là, il y a un décalage visiblement.
Mais je lis l'équipe en même temps.
Ah oui, d'accord.
Alors, on est mal barré. C'était pas...
Le quiz.
Pour jouer avec vous, messieurs, Jordan et Mohamed. Salut Jordan. Jordan.
Bonsoir l'équipe.
Salut Jordan. Allô.
Roten ou Larqué?
Larqué.
Très bien. Jordan avec Captain. Et donc Mohamed, tu es avec Jérôme Roten.
Salut Mohamed.
Salut Jérôme.
En bon supporter de l'OM, tout va bien.
Mais oui, bien sûr qu'il est content.
Alors, quelques questions sur l'actu du jour et...
Je remercie après.
Et des questions sur les matchs de prépa. Attention, qui a dit aujourd'hui, la Super League, vous savez, ce n'est pas un coup d'État, mais un cri d'alarme. Un cri d'alarme désespéré. L'un des
artisans. C'est le président de...
Serais-tu
de
Pérez?
Non. T'as dit qui, Mohamed?
La portrait.
Agnelli,
bien joué Jean-Michel. C'est bien le président
c'est
de la
Juve. C'est pour moi.
Bah, tu dis le président de la Juve, il faut le nom, Mohamed.
Le président de la Juve.
Bah oui, mais bon, il faut donner le nom, malheureusement. Avez-vous bien suivi des matchs de prépa? Donnez-moi le prénom et le nom de celui qui a marqué pour la Belgique contre la Grèce.
Torgan Hazard.
Ah là, bien joué, Mohamed.
Bien joué, Mohamed.
Voilà. Un partout. Je sens que Mohamed, tu vas porter Jérôme. J'ai l'impression.
Là, oui.
Attention, de qui.
De...
On se met dans ça quand même. De qui parle la présidente de Chelsea quand elle dit il a immédiatement fait partie intégrante de la famille?
Tourelle.
De Tourelle, Captain, bien joué. De...
Ah bah oui, bah oui. Mais...
C'est allé vite.
Attends.
Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Deux. Donnez-moi un joueur qui était titulaire avec la Belgique et qui a joué en Ligue 1 cette saison.
Meunier.
Allez, Doku, Captain.
Doku.
De cette année, tu dis ?
Oui, Meunier, il est plus en Ligue 1.
Bah non, mais tu
3-1.
Eh ben, quelques points cette année.
Doku et Denayer, qui auraient pu être cités.
Pourquoi je suis aussi fort ?
Qui a dit ?
Pourquoi je suis aussi fort ?
Je pense qu'on l'a plutôt aidé. Si j'avais été lui, j'aurais dit merci de m'avoir fait ça. C'est un entraîneur qui raconte un moment compliqué avec son joueur.
Mourinho ?
Non, c'est en Ligue 1 que ça se passe. Non, c'est dans un petit club de Ligue 1. Ça se passe autour.
Dijon,
Moulin. Non, c'est pas Moulin. C'est un autre entraîneur.
C'est Stéphane. Dalloglio ?
Non. Oui, Dalloglio, capitaine. 4-1. 4-1, c'est impressionnant. Mais c'est pas terminé.
Et il parlait de qui ?
Comment ? Il parlait de Larsonneur, son gardien.
Ouais.
Comment s'appelait le gardien du Pays de Galles face aux Bleus ?
Ward.
Mais il est un jouable, capitaine. C'est incroyable. 5-1. Exceptionnel.
Ah, c'est pas les pilules qu'il a pris, là. C'est.
Qui a dit, il a une grande expérience, nous n'avons pas beaucoup de joueurs qui ont remporté des trophées.
Ibrahimovic, bien joué.
Ah, oui.
C'est Jordan.
En parlant de qui ?
C'est pour Giroud, ouais.
C'est Jordan pour Giroud, effectivement.
C'est Jordan. Jordan, on est à combien là ?
6-1.
C'est Nadal Gasquet, là, non ?
Sur tous les matchs de prépa de la semaine, donnez-moi un joueur qui a mis un doublé. Il n'y en a eu qu'un. Il a passé la saison en Ligue 1.
Deux pailles.
Oui, bien joué, Jérôme. Deux pailles. 6-2. Attention, donnez-moi un
double,
des. L'Allemagne a joué avec une défense à 3. Donnez-moi le nom d'un des défenseurs.
Zoule.
Ouais, Zoule, Mohamed. Ouais.
Bien joué, Jordan.
6-3. Donnez-moi le buteur de la Croatie contre l'Arménie. Il y a eu un partout.
Hein,
qui a marqué pour la Croatie ? Non, c'est pas Modric.
Jovic.
Oui, Perisic. Bien joué, Mohamed.
Kramaric.
6-4.
Jordan. Oh.
Attention.
Qui a dit
je pense que très peu de personnes dans le monde peuvent comprendre que quelqu'un qui gagne 15 millions ne soit pas satisfait avec 19 millions.
Comment il s'appelle le président du Bayern Munich.
Rummenigge, Jérôme, bien joué. 6-5.
Allez,
c'est énorme.
Oh, c'est beau.
Donnez-moi un joueur qui a joué arrière droit pour les Bleus face au Pays de Galles.
Pavard,
Jérôme, bien joué. Et enfin, donnez-moi un entrant français.
Koundé.
Et oui, Koundé, moi-même. Et l'Intégral Sport arrive tout de suite avec Thibaut Giraud.
Je me demande si Jordan n'est pas parrain avec Arnaud.
Ah non, mais bon. Mohamed a été énorme. Bravo à lui. L'Intégral Sport, Thibaut Giangrand. Salut Thibaut.
Salut les gars. Et aujourd'hui, énorme événement. On va en parler longuement au début de l'émission. À Roland Garros, pour la première fois au début du tournoi. Pas un seul Français n'a perdu. C'est énorme. On se retrouve de la porte d'Auteuil avec Eric Salio. Et puis on parlera rugby demain soir dans 24 heures. C'est le dénouement. Dernier match de la saison. Il y a énormément d'enjeux. On en parle avec Jeff Paturo. Voilà, c'est l'Intégral Sport qui
et
démarre.
Le foot féminin. Dénouement de la D1 féminine ce soir.
C'est ce soir.
Dans l'after à partir de 21h.
Bien sûr. Voilà. Là, on a hâte. Vite.
Et 0-0 toujours entre l'Espagne et le Portugal. On suit également cette rencontre. Roten Régal de retour vendredi prochain.
Vendredi, allez. Bon week-end à tous.